On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On ne va pas se mentir. Très chers auditeurs, au programme Proposition de Clémence Guettet du Pax Amitié, dernier clou dans le cercueil de la famille, Marine Le Pen conspuée au festival Rock en scène ou encore la volonté d'interdiction du voile dans l'espace public. On vous parle de tout ça dans quelques instants. Mathilda, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien et vous tous ?
Oui, très bien.
Vous avez passé un bon été ?
Ah bah ça démarre fort là, Mathilda est en forme.
Oui.
pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes porte-parole, cofondatrice du collectif Némésis.
Exactement.
Ça consiste en quoi ?
Eh bien écoutez, c'est un collectif féministe de femmes qui ont décidé de ne pas taire l'origine de leurs agresseurs. Et donc on fait le lien entre l'immigration et l'insécurité qui touchent les femmes aujourd'hui en France. Et donc ça fait 7 ans que le collectif existe, on est environ 500 militantes actives en France, on est également en Belgique, en Italie et en Suisse.
Merci d'être avec nous Mathilda. Ryan, vous êtes journaliste et vous avez un coup de gueule, vous êtes en colère aujourd'hui.
Je suis très en colère aujourd'hui.
Comment allez-vous ?
Ça va super et toi ?
Et toi ? On se connaît. Merci d'être avec nous, on va commencer avec un... Excusez-moi, je vous ai même pas dit bonjour en fait.
Non, mais je vois que les deux nouveaux autour de la table ont pris toute votre attention, mais c'est ok.
Comment ça va, Axel ?
Et j'espère que vous avez fait exprès de dire Axel. Mais vous voulez prendre la place d'Armand aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais ça va très bien, merci. Tu as passé une très bonne journée et je suis toujours aussi content de vous retrouver. Donc, écoutez, pour l'instant, tout va bien.
Armand.
Ah, bonjour. Bonjour, Baya. Ravi d'être là. Ravi que vous me parliez enfin, après une heure d'émission. Comment ça va, Baya Carla ?
Très bien, et vous ?
Superbe.
Vous êtes en forme ?
Je suis très en forme, très en colère, très enjoué, tout ce que vous voulez. Plein d'émotions en moi actuellement.
Vous êtes content des deux nouveaux
Absolument pas. Je les adore.
On va commencer avec un tour de table. Nous ouvrons ce soir avec un chiffre qui agite tous les états-majors politiques. 52 contre 48, c'est l'avance que confère à Marine Le Pen le dernier baromètre publié en vue du second tour de 2027. Une tête certes confortable sur le papier, mais que la marge d'erreur et l'instabilité du corps électoral rendent encore fragile. Alors cette fois, la digue est-elle réellement sur le point de céder ? Ou continue-t-on, comme à chaque cycle électoral, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ? Armand.
Écoutez, je pense qu'on vend effectivement la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous rappelle qu'en 2022, c'était exactement à peu près la même situation. On donnait Marine Le Pen largement favorable en tête. Elle était censée être la future présidente de la République. Et on a vu le résultat. Elle était à 41%, loin derrière Emmanuel Macron. Je pense qu'à chaque fois, le problème, c'est le plafond de verre. Que Marine Le Pen a, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de report de voix pour le second tour. Alors effectivement, je pense qu'elle sera évidemment première au premier tour, et elle est très bien partie pour. Cependant, elle n'a pas de report de voix. Le peu de report de voix qu'elle avait, c'était une partie d'ailleurs, et non pas la totalité, de ceux qui avaient voté Reconquête, et elle avait peut-être une micro-partie de ceux qui avaient voté Les Républicains, qui ont fini plutôt chez Emmanuel Macron, mais qui avaient quand même choisi pour un petit nombre Marine Le Pen. Mais le problème, c'est le report de voix, ça reste toujours le plafond de verre qu'elle s'est créé, et qu'aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'elle arrive à briser, surtout avec la proposition dont on parlera tout à l'heure.
Mathilda.
Alors déjà, je trouve ça toujours un petit peu difficile, les sondages à un an de la présidentielle, parce qu'on sait qu'ils sont amenés à changer en fonction des campagnes qui vont suivre. Donc toujours un petit peu compliqué, je trouve, de la donner gagnante ou pas. Et comme disait Armand juste avant, le second tour, en fait, est toujours décisif et c'est ce qui l'a fait perdre à chaque fois. En fait, s'il n'y avait qu'un tour présidentiel, peut-être qu'elle aurait déjà gagné depuis un moment. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et donc, on verra ce que ça donne et on verra aussi les candidats qui se présentent, puisqu'on tous n'ont pas déclaré pour l'instant leur candidature.
Et tous n'ont pas leur parrainage.
Exactement, tous n'ont pas non plus leur parrainage. Donc, à voir. Mais moi, j'ai un petit peu de mal à croire aux sondages qui sont très, très à l'avance comme ça.
Vous seriez pour un second tour avec Marine Le Pen ?
Oui, moi, si c'est Marine Le Pen au second tour, je voterai pour Marine Le Pen.
Très bien. Ryan, est-ce que vous êtes confiant pour Marine Le Pen ? Et est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs ?
Est-ce que je suis confiant pour Marine Le Pen ? Alors je pense qu'elle a toutes ses chances de gagner les présidentielles, même si je ne voterai pas pour elle. C'est vrai qu'avec le parti Reconquête qui a rejoint l'alliance de Marine Le Pen au second tour, quand ils ont tous voté, enfin Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen, je pense qu'elle a moyen de gagner, mais je pense aussi que la montée de l'extrême gauche et l'alliance qui aura la gauche, Marine Le Pen ne va pas l'emporter.
Donc vous pensez qu'elle ne va pas gagner alors ?
Non.
Face à Mélenchon.
Même si elle est sur une belle lancée, je ne pense pas qu'elle va gagner.
Et est-ce que vous faites partie de l'équipe des castors et vous allez faire barrage à l'extrême droite ?
Bien sûr.
Donc vous préférez voter Mélenchon que Marine Le Pen?
Je préfère voter de gauche que Marine Le Pen.
Très bien. Alex?
Moi, je suis un petit peu d'accord avec tout ce qui a été dit. J'y crois pas
une seule
seconde. Non, en fait, pour moi, c'est évident. J'y crois pas une seule seconde. Comme l'a dit Armand, le plafond de verre, je pense, n'est pas encore brisable. Je pense que la réserve de voix qui lui manquera sera toujours trop grande entre le premier et le second tour. Je pense pas que c'est... Alors, j'imagine qu'elle va peut-être grappiller quelques voix en plus des voix de Zemmour de l'année dernière. Il y aura peut-être les voix d'un Retailleau ou d'un candidat de droite qui pourront se rapporter, mais ça sera un pourcentage minime qui sera pas suffisant, je pense, pour passer les 50%. Moi, j'y crois pas du tout, et je pense que au second tour, ça s'appellera la NUPES 2.0, le NFP, je ne sais quoi, ils trouveront un nouveau sigle, mais j'y crois pas du tout. Moi,
il faut y être déjà au second tour pour la gauche. Hein.
Alors, faut être au second tour, mais je pense qu'en fait, ce délire de NFP-NUPES sera dans tous les cas de figure, quel que soit le candidat qui sera face à Marine Le Pen.
Pour les législatives, c'est certain. Après, faut encore une fois se qualifier pour le premier tour. Ça, c'est pas encore fait.
Mais vous voyez qui comme candidat au second tour? Est-ce que vous pensez qu'un Retailleau,
j'aime beaucoup Bruno Retailleau, mais je pense que Bruno Retailleau n'a pas effectivement aujourd'hui les votes nécessaires pour aller au second tour. Pour moi, le duel se refait avec un Édouard Philippe face à Marine Le Pen. J'ai peine à croire que
Mélenchon... Édouard Philippe l'emporte?
Édouard Philippe l'emporte par défaut, in fine, oui, bien sûr.
Je pense que cette alliance sera dans quel que soit le candidat qui sera face à Marine Le Pen.
Vous voulez dire le barrage sanitaire.
Voilà, le cordon sanitaire, le front républicain, comment on veut l'appeler, mais je pense que n'importe quel candidat qui se retrouvera face à elle bénéficiera de ce front républicain.
On va passer tout de suite au coup de cœur, coup de gueule de la semaine.
Les coups de cœur et coups de gueule.
Il était court ce jingle.
C'est bien, c'est mieux en vrai.
On croyait avoir tout vu en matière de déconstruction des repères. Il fallait encore inventer le Pax entre amis. C'est la proposition que porte désormais la députée insoumise Clémence Guettet. Un partenariat social sans cohabitation ouvert à deux amis avec droit de succession à la clé. Je m'y attarde ce soir parce qu'au-delà de l'anecdote, c'est bien la cellule familiale, dernier rempart contre l'atomisation de notre société, que l'on cherche une fois de plus à dissoudre dans le grand tout indifférencié. Voilà, donc c'est Clémence Guettet qui a publié le 27 août pour une politique de l'amitié où elle détaille son projet de loi. Le partenariat social reprendrait les avantages du Pax sans exiger la vie commune, ouvert à deux amis. Armand, vous pensez quoi? Moi, je suis assez énervée. C'est encore, on a encore une volonté d'insulter toutes ces familles qui ont un papa, une maman et des enfants. Voilà, on veut déconstruire le modèle familial de base, inventer des choses étranges, voilà, des choses dont on n'a pas besoin. Et il y a une attaque. Elle cible d'ailleurs ces familles en disant que c'est de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des enfants, être catholique, voilà, c'est d'extrême droite, Armand.
Plutôt d'accord avec vous, parce que je pense que ce fameux Pax Amitié n'est juste un prétexte effectivement pour critiquer la cellule familiale et ses structures familiales. D'ailleurs, elle le fait directement, hein, elle le fait de plein front à chaque fois en disant oui, mais le modèle familial patriarcal n'est pas l'unique, il peut y avoir d'autres modèles, notamment le Pax Amitié. Moi, je suis favorable à un Pax entre voisins, je suis favorable à un Pax avec mon chien. Écoutez, si on peut faire des Pax pour tout et n'importe quoi, faisons-le, je comprends absolument pas l'intérêt. Évidemment, c'est juste pour critiquer la cellule familiale. Le dernier endroit, normalement, qui est censé être préservé un peu de politique, qui est censé être préservé des lois, qui est quand même le cercle familial, où on a une certaine liberté, une certaine, je dirais, intelligence sociale, où en fait, on est en relation avec les gens, on est en relation avec ses enfants, avec sa femme, et qu'on n'a pas besoin que l'État, que Florence Guettet...
Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une forme d'électoralisme? Il y a une recherche aussi de la jeunesse, la gauche le fait très bien. Il y a une recherche d'aller trouver un électorat jeune et je pense que c'est un peu ça aussi. Non, parce que quand on voit les images...
C'est la suite de la déconstruction. C'est la suite logique de la déconstruction sociale qui a amené. On déconstruit le sexe, on déconstruit la famille, on déconstruit tout ce qui existe. Mais le problème de la déconstruction, moi j'ai pas de problème avec la déconstruction. Je pense qu'il y a des faits qu'il faut déconstruire lorsqu'ils sont mauvais. Je vois pas le problème de la cellule familiale, entre autres. Mais pourquoi pas déconstruire? Mais pour déconstruire, pour proposer quoi? En fait, c'est toujours ça le problème. Ils veulent déconstruire. Très bien, déconstruisons, pourquoi pas. Mais pour proposer quoi? Il n'y a jamais aucune proposition. Si on va détruire tout ce qu'il y a comme cellule, tout ce qu'il y a comme ordre, pour proposer quoi? Rien, le néant. Je vois absolument pas.
Mathilda, vous pensez quoi de ce Pax Amitié?
Moi, je suis atterrée.
Paxons-nous tous, les amis.
Non, mais c'est encore une proposition, c'est ubuesque, en fait. Je veux dire, pourquoi vouloir détruire la famille? C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés, ça fait l'unanimité depuis la nuit des temps. C'est comme ça en fait que l'espèce humaine a perduré, c'est-à-dire en faisant des couples hétérosexuels et des enfants. Donc oui, quand on me dit qu'on veut faire un Pax Amitié pour donner son héritage à son voisin, à son meilleur ami, à je ne sais qui, enfin, à un moment donné, il faut arrêter 5 minutes en fait. Mariez-vous, faites des enfants, arrêtez d'être de gauche.
Ryan, vous pensez quoi des propos de Mathilda?
Je suis sidéré par les propos de Mathilda.
Ah,
donc est-ce que pour vous, Mathilda, il faudrait vraiment être hétéronormé, faire des enfants pour avoir une famille.
Pas forcément, mais en tout cas, je pense...
C'est ce que vous aviez dit il y a deux minutes.
Non, mais je pense que c'est la norme, en fait. C'est la norme. C'est la norme dans toutes les sociétés, depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça, a priori, qu'on fait des enfants. Je crois que c'est un couple hétérosexuel qu'on fait. Maintenant, il peut y avoir des couples homosexuels. Je ne rejette pas les couples homosexuels, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une famille.
Mais il n'y a pas que des couples homosexuels. Il y a aussi des personnes qui sont juste seules et qui veulent des enfants.
Oui, mais ça existe, oui. Et alors ?
Ça existe, ça s'appelle les familles monoparentales.
Oui.
Oui.
Donc je ne vois pas où est le problème au fait de devoir avoir un couple pour faire un enfant. Enfin, on peut faire un enfant sans
mais
être
à la, à la base, enfin, vous doutez bien que ça tombe pas des cigognes, c'est-à-dire qu'à la base, il a fallu un couple, vous voyez, pour faire un enfant, un couple hétérosexuel, du coup. Donc, il existe des familles monoparentales, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des accidents de la vie, ça peut être des séparations, ça peut être des divorces, ça peut être la mort d'un des parents, etc. Ça veut pas dire que ça doit devenir la norme, en fait. Il faut pas normaliser ça, je pense.
Donc, du coup, il faudrait pas normaliser un PEX entre amis, alors que pour moi, ça devrait être totalement normal.
Non,
pourquoi faire ? Mais quelle est la
plus-value pour vous d'avoir un PEX amitié ?
Bah, écoutez, vous avez besoin de légaliser l'amitié que vous avez envers une personne.
En général, les amitiés, elles s'arrêtent moins brutalement qu'une relation de couple. Les amitiés...
Mais vous voulez dire quoi par ça ?
Bah, les amitiés sont beaucoup plus longues, elles sont beaucoup plus sincères. On ne va pas tromper son ami comme on trompe un partenaire. Les amitiés, c'est...
C'est très personnel comme vision.
Après, enfin, je suis désolé, mais vous êtes en train de comparer quand même deux situations OBS qui ont absolument rien à voir.
Rien.
Ils peuvent être complémentaires, d'ailleurs.
Qui peuvent être complémentaires, mais il n'y a aucun rapport entre avoir une copine ou avoir un mari et avoir un ami. Enfin, c'est pas du tout les mêmes activités qu'on fait ensemble.
Non, mais oui, bien sûr. Mais après, on peut avoir les mêmes activités en couple et entre amis. Ça ne regarde
qu'un sacroir.
Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est écoutez, moi, je préfère avoir des amis et me paxer avec eux, enfin, ou paxer avec un ami que devoir me paxer pour ou me marier pour avoir des enfants.
Mais vous reconnaissez que la gauche aujourd'hui a comme vision de déconstruire totalement le modèle familial en le qualifiant notamment de fasciste.
Mais pourquoi pas, nous sommes en 2026, on n'est plus
en fait, c'est ce que j'allais dire, il est en faveur de la déconstruction, je vois pas quel est le problème pour lui à ce que vous venez dire. Il est en faveur de la déconstruction.
Non, mais
attendez, laissez-le répondre s'il vous plaît.
Non, par contre, moi j'ai un truc.
Non, mais attendez, Ryan.
Juste moi, j'ai une question pour comprendre.
Je vous écoute.
À quoi ça sert ? Demain, vous allez avoir un contrat, donc ça veut dire que ça va être légal. Vous allez légiférer sur votre amitié avec une personne. Pourquoi faire ?
Alors déjà, vous connaissez les avantages du PEX ?
Oui, fiscal. Mais bon...
Voilà. Bah voilà, ma réponse est...
Ah, ok.
Bah pourquoi pas ?
Donc on peut se paxer à volonté pour... Ok, donc c'est les impôts,
en
fait.
Mais on va revenir sur les valeurs de base.
Pas si de gauche, finalement, le Ryan.
L'une des valeurs très importantes, quand même, de notre pays, c'est les valeurs familiales. C'est très important. La bonne santé d'un pays se résume aussi à ses familles. Aux femmes qui s'occupent de leurs enfants
société,
et aux hommes aussi maintenant, mais qui s'occupent de ses enfants. Aujourd'hui.
Mais pourquoi vous parlez d'enfants ? Il n'y a pas que des enfants dans une relation.
Mais c'est le fruit d'une relation.
Non.
Aujourd'hui, on est en urgence démographique et on va dire aux femmes et aux hommes, mais arrêtez de vous marier. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une division entre les hommes et les femmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de les diviser encore plus, Mathilda. Alors.
Oh non, mais je suis plus d'accord.
Parce que je vois vous agiter sur votre chaise.
Non, mais en fait, je trouve que c'est un débat qui n'a pas de rapport. Moi, je comprends qu'on puisse avoir des amitiés solides là-dessus. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est vraiment pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est de dire la famille, c'est une unité qui est sacrée. Et je pense qu'en légiférant des PACS, demain, on en arrivera au mariage, hein, parce que, enfin, je veux dire, ce sera sans doute la suite logique si on veut une égalité dans l'amitié, le couple, etc. Bon, voilà, ça finit toujours de la même manière. Ça commence.
C'est un pied dans la porte. Hein.
Voilà. Et donc, en fait, c'est une désacralisation totale de la famille, parce que c'est une désacralisation de la relation que deux êtres peuvent avoir ensemble pour avoir un enfant. On est dans un pays où le taux de natalité est en baisse, on le sait, on est en urgence démographique, comme le rappelait Baya. Donc, je pense que c'est important, en fait, d'arrêter de partir dans des délires qui détruisent encore plus cette fondation qui est fondamentale, en fait, pour qu'une société ne perde pas pied.
Je n'y vois aucun délire. Il y a des familles qui font de la coparentalité, des amis. Qui font des...
Vous nous donnez des exceptions à chaque fois.
Mais ce n'est pas que des exceptions.
Mais c'est des individus.
Mais
c'est
les minorités doivent être représentées quand même.
Mais
faut pas en faire une généralité. Attendez. Une norme, un couple, un homme, une femme qui se marie, va à l'église.
Oui, mais c'est pas ces exceptions-là qui doivent faire la norme.
Quel est le rapport là? Vous faites le même lien qu'avec Clémence Guettet, c'est-à-dire que c'est le cliché de la famille catholique.
Bah, c'est ce qu'elle est en train de dire depuis tout à l'heure.
Elle a pas parlé de catholicisme.
Je l'entends bien. J'ai pas entendu de voix, je sais. Mais vous avez quand même parlé de. Voilà, d'une famille moderne qui se marie entre un homme et une femme et qui font un enfant.
Parce que c'est du fait que pour faire des enfants, il fallait être un homme et une femme, ouais.
Voilà, on peut être coparent et être un homme et une femme et faire des enfants.
Coparent, qu'est-ce que c'est ?
La coparentalité.
C'est moi,
ça m'intéresse. Je vais vous expliquer c'est quoi la coparentalité. Donc par exemple, un individu qui ne veut pas forcément passer sa vie en couple avec une femme, il peut très bien être hétéro, homo, ou ce qu'il veut, pan, vraiment ce qu'il veut, et avoir une amie avec qui... qui a aussi un désir de grossesse et faire un enfant ensemble.
Et quel est, parce que c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'on pense à l'enfant aussi derrière ça? Là, on s'éloigne du sujet.
Bien sûr
mais
que non.
Est-ce que,
mais
c'est intéressant. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une matérialisation aussi des enfants. Il y a un commerce des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, pour bien grandir et être bien dans sa tête, a besoin d'un homme et d'une femme.
Bah, il aura un homme et une femme dans une coparentalité.
Oui, mais vous voyez bien qu'il y a
c'est
un souci.
C'est le summum du consumérisme. Ouais, je veux un enfant, vraiment... j'ai besoin d'un enfant, j'en fais un.
Répondez.
Et peu importe son avenir, j'en fais un parce que je le veux. Parce que moi, c'est mon désir actuel. Mais... le consumérisme est absolu. J'achète un enfant comme j'achète du coca. J'ai envie d'une canette, je vais acheter une canette. J'ai envie d'un enfant, je le fais. Je le fais en ne me souciant pas du tout de son avenir. Effectivement, je vais faire de la coparentalité. Donc, en fait, c'est un couple divorcé déjà. Il est divorcé sans s'être marié. Donc, ça veut dire qu'il sera une fois chez papa, une fois chez maman, c'est quoi, c'est ça?
Oui, c'est
d'accord,
ça.
Donc avec tous les traumatismes que ça crée, etc., que des centaines et des centaines de psychologues analysent, où le divorce est un véritable déchirement pour les parents, en fait, vous voulez juste, encore une fois, je peux comprendre le désir individuel. Il faut aussi penser à l'avenir, il faut aussi penser à la société.
Faut parce pas qu'en légiférer. Fait,
on a attendez, Ryan va répondre ensuite, Alex.
Cet enfant connaîtra moins de traumatismes.
Oui, selon qui?
Bah, non, mais je vais vous... Je peux finir mon propos, s'il vous plaît?
Je vous laisse, merci. Bien sûr.
Donc du coup, cet enfant connaîtra moins de traumatismes plutôt que grandir dans un foyer où les parents s'insultent sans arrêt, parce que au moins, ils auront choisi d'avoir cet enfant à ce moment-là, et avec cet accord-là, où voilà, on a une garde partagée, ils sont amis, et pourquoi pas se paxer du coup entre amis pour revenir au sujet.
Alex.
Alors moi, je vais vous dire déjà, quand j'ai vu cette mesure, j'étais très ravi de cette mesure, parce que je trouve que ça montre
attention,
exactement...
Attention, c'est pas une mesure, hein, c'est une proposition
pas, oui,
de
une
loi.
Une proposition, mais en fait, je trouve que ça montre à quel point ce parti est déconnecté de ce qui se passe. On parle de pouvoir d'achat, on parle de tout ce qu'il y a eu en termes d'incendie, et eux, c'est ce genre de mesure qu'ils nous proposent. Et je comprends qu'il y ait certaines personnes de gauche qui sont, pour reprendre votre terme, je vous cite, hein, sidérées par ce qu'est la normalité. Mais la normalité est ce qu'elle est. Les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Et je rejoins tout à fait ce que disait Armand. C'est vraiment le principe de vouloir légiférer pour combler le désir instantané d'un couple ou d'une personne qui veut un enfant, comme vous l'avez dit. Je suis désolé, mais si vous pensez... Parce que moi, je suis toujours ahuri par cette facilité que vous avez, les gens qui sont en faveur de ce genre de mesures, à croire qu'un enfant sera beaucoup plus heureux dans un couple homosexuel ou monoparental.
J'ai jamais dit
plutôt
ça.
Vous avez dit, il vaut mieux un enfant qui aura beaucoup moins de trauma que dans un foyer. Mais où est-ce que vous, d'où vous venez pour dire qu'un couple hétérosexuel est forcément un foyer où il y a des disputes qui traumatisent les enfants? Est-ce que ça vous traverse pas l'esprit?
J'ai pas dit
que
c'était systémique.
Mais vous n'avez pas du tout apporté de nuance dans votre propos. Vous avez dit, l'enfant grandira avec beaucoup moins de trauma que dans un foyer. Mais évidemment, tout comme un enfant, je pense, dans un foyer hétérosexuel, grandira avec beaucoup moins de trauma si le foyer est sain, qu'un enfant qui grandirait avec une famille monoparentale saine. Parce que l'équilibre n'est pas le même. Je sais que c'est compliqué pour vous de voir que la normalité existe, mais les lois de la nature sont ce qu'elles sont.
C'est grâce à la normalité qu'on a réussi à survivre jusqu'aujourd'hui. Hein. C'est la famille, c'est la survie. Hein.
C'est ce qu'on appelle l'arrogance générationnelle. Nos ancêtres étaient des idiots. Tout ce qu'ils ont mis en place, il faut le déconstruire parce qu'ils étaient trop stupides.
Alors, et ils pensaient pas à nous, et nous aussi on a besoin d'eux.
Mais vous souhaitez répondre, Ryan, en ce temps,
c'est
un autre sujet.
Dans ce genre de bonne société, c'est qu'ils avaient peut-être pas tort.
S'il vous plaît.
Ils étaient pas stupides, les ancêtres. C'est juste que on est en 2026, en fait. Si on vit à l'époque des Cro-Magnons. Et
pourquoi elle est de 2026 à l'époque des Cro-Magnons? Genre pourquoi elle est si loin que ça? Pourquoi si loin?
Parce que il y a eu des périodes
où ça se passait beaucoup
voilà,
mieux.
Mais de ça en 2026 en tout cas, c'est ça que je veux vous dire. Et en 2026, il faut avancer. Il y a des personnes.
Non, vous voulez qu'on avance dans votre sens.
Ouais,
ça n'a rien à voir. Vous voulez pas avancer. Okay, donc, en fait, si... d'où c'est une avancée. En fait, tout ce qui va dans votre sens n'est pas forcément une avancée. C'est une évolution, si vous voulez, mais ce n'est pas forcément une avancée.
Bah, le progrès, le progrès n'est pas forcément une bonne chose. Hein.
Exactement.
Il y a le progrès technique, il y a le progrès qui est intéressant.
Du progrès sensé, c'est tout. Là, voilà. C'est encore une fois.
Faites-vous des minorités alors dans ce cas-là?
Mais les minorités, elles sont pas oppressées là dans ce cadre-là. Avec votre ami, quand vous avez un ami, quand vous avez une copine, vous êtes oppressé? Vous n'êtes pas oppressé, il n'y a pas besoin de légiférer là-dessus. Vous n'avez pas envie de vous marier avec, ne vous mariez pas avec, restez amis, c'est tout.
Mais s'il y a deux personnes qui sont amies
sociales. Mais les normes sociales n'ont pas besoin d'être codifiées. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un m'explique et légifère sur le fait de mon rapport à mon animal. Moi, j'ai un chien. Est-ce qu'il faut légiférer sur le fait de comment je parle à mon chien, comment je le promène, comment je le nourris? Non, je sais le faire.
Mais vous inquiétez pas, en 2027, vous pourrez vous paxer avec votre chien.
Bon, allez. Mathilda, vous avez un coup de gueule. Il s'agit d'un vote qui, à lui seul, résume l'état de déliquescence morale d'une partie de notre classe politique. Le 17 juillet dernier, 41 députés de gauche, dont 24 insoumis, ont fait obstacle à la perpétuité. Pardon, ce soir, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Pour les violeurs en série de mineurs de moins de 15 ans. Un vote qu'aucun argument technique ne saurait justifier. Mathilda, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, et ben LFI a été le seul parti à défendre les pédophiles, hein, parce que je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui ont voté donc contre la perpétuité pour les pédophiles multirécidivistes, en disant, ben, ils ont plusieurs arguments, hein, mais en disant notamment que ben, ces gens-là ne devraient pas être punis, mais devraient être soignés. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on peut espérer cohabiter avec des pédophiles multirécidivistes, comment on les réinsère dans une société, est-ce que c'est envisageable? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je pense que la fille part dans un énorme délire complètement fou en voulant en fait libérer ces gens qui sont inlibérables, qui sont inassimilables dans la société, selon moi.
Voilà. Qu'en pensez-vous, Armand ? Avez-vous été choqué ?
Moi, j'ai été très choqué parce que, vous le savez, j'avais fait un documentaire notamment sur effectivement les pédocriminels et la pédophilie. Je comprends l'argument de... Si il risque la perpétuité, c'est comme pour la peine de mort. Si on risque la peine de mort, si on risque la perpétuité, effectivement, on a plus tendance à tuer la victime parce que c'est le principal témoin.
Mais ça, je suis pas d'accord.
Sauf que, et c'est là où j'en arrive, sauf que cet argument ne tient plus parce qu'on voit qu'en fait, maintenant, il tue. En fait, peu importe. Parce qu'en fait, il y a eu, on parlait de progrès tout à l'heure, il y a eu énormément de progrès techniques, de progrès dans la police scientifique et autres. Donc, effectivement, maintenant, le témoin est gênant de fait. Donc, il n'y a plus ce truc assez passéiste où, à l'époque, effectivement, dans les années 80, 70, ils avaient beaucoup plus tendance à laisser la victime vivante parce que la recherche était beaucoup plus compliquée. Maintenant, non. Pour moi, Mathilda a totalement raison. C'est des individus aujourd'hui qui sont totalement nuisibles à la société, qui ne sont pas réinsérables, qui sont dangereux. Et on les remet en liberté. Pourquoi ?
Ryan.
Il y a un risque de récidive terrible.
Alors... Nos amis.
Alors, je pensais vraiment pas être d'accord avec Mathilda ce soir.
Incroyable. Revenons sur le sujet précédent, s'il vous plaît. Revenons sur le sujet précédent.
Je n'ai pas fini mon propos.
Ah, mais
je suis d'accord avec Mathilda sur ce sujet-là. C'est vrai que la pédocriminalité, moi, honnêtement, ça va peut-être vous choquer, mais je suis pour la castration chimique.
Ouais. Mmh.
Je suis pour
pas choqué, je crois.
Choqué, c'est pas le mot, c'est pas le mot.
On va bien dormir ce soir, ça va aller.
Et ouais, je suis vraiment pour la castration chimique. Pour moi, on ne touche pas un individu et encore moins aux enfants. Donc ils ne sont pas réinsérables. Et si on pourrait les mettre loin dans une prison et qu'ils pourrissent là-bas, je les accompagnerai à l'aéroport.
À l'aéroport, pourquoi ?
Pour aller loin dans un avion. Comme...
Ah mais où ?
Bah, je sais pas.
Il veut rouler en Mayenne.
Alex.
Et je me permets un petit tacle envers vous, parce que je précise, parce que vous m'avez taclé il y a deux sujets précédents. Vous m'avez dit que je suis toujours d'accord avec tous les gens. Vous m'interrogez toujours en dernier. Ils ont toujours tout le temps de tout dire
vrai,
comment vous voulez que je sois pas d'accord.
C'est vrai.
Là, sur un sujet comme ça, comment ne pas être d'accord avec tout ce qui a été dit ? Je suis désolé, la pédocriminalité, c'est l'un des sujets, moi, qui est le plus viscéral pour moi. Et encore une fois. En fait, la France Insoumise, je pense qu'ils ont compris comment fonctionne le débat public, ils imposent leur thème, ça fait du débat, la preuve, on en parle. Je pense que c'est plus que ce qu'ils cherchent en soi que de vraiment remettre des pédophiles en liberté. Évidemment, je suis tout à fait contre cette proposition de LFI. Enfin, en tout cas, je suis contre le vote LFI qu'ils ont fait à l'Assemblée. Je comprends pas comment on peut daigner voter ce genre de mesures tout en expliquant qu'on a besoin de... En fait, il faut comprendre que les Français, ils veulent juste se sentir en sécurité dans la rue et ils ne veulent pas être en contact de gens qui potentiellement peuvent attaquer leurs enfants. Si c'est trop compliqué à comprendre...
Armand, vous êtes d'accord avec Alex ?
Moi, je suis totalement d'accord avec Alex. Après, LFI, vous disiez, je pense que c'est pour faire parler, etc. Non, moi, je pense réellement qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Et c'est ça le pire. Le problème est là, c'est qu'ils sont convaincus.
Je pense qu'ils le pensent, mais ils le mettent sur la table.
Et ils font ça sous couvert d'humanisme. Oui, on ne peut pas enfermer quelqu'un à vie, c'est inhumain. Ce qu'a fait cette personne... Enfin, on parle d'un pédocriminel, hein. On ne parle pas d'un voleur...
Multirécidiviste,
c'est ça.
Non, mais déjà, moi, ça me choque. Multirécidiviste. Ça veut dire que la première fois, on ne l'a pas arrêté. Donc, il y a un problème à un certain niveau. Il y a un problème avec la justice française. J'ai l'impression qu'on les protège. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on protège les pédophiles. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Il est arrivé sur la table il y a quelques années. Mais moi, je suis désolée, mais j'ai l'impression que vraiment, la pédophilie, c'est quelque chose de tabou. On l'a vu dans les années 70, notamment avec Maznev et compagnie, et toutes les cliques de gauche, etc., qui glorifiaient la pédophilie, qui disaient que c'était bien de toucher un enfant, que la sexualité d'un enfant existait. J'ai l'impression... On vit quand même dans ce pays. Hein, donc
les protéger peut-être pas, mais c'est vrai que c'est des enquêtes qui sont généralement très difficiles, où la charge de la preuve n'aide pas non plus. Les témoignages des enfants est assez confus aussi parce que ça reste des enfants. Je trouve qu'on met déjà beaucoup de pression sur les enfants et la charge de la preuve devrait être inversée. D'ailleurs, pour moi, c'est complètement débile de garder la charge de la preuve dans les cas de pédophilie. parce que dans les cas de pédocriminalité et de pédophilie, parce qu'un enfant, effectivement, quoi qu'il arrive, va perdre ses moyens. Ça reste un enfant, et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pas deux adultes face à face, c'est un enfant, encore une fois, qui est face à un adulte. Mais oui, oui, je pense qu'elle est suffisante. Elle est pas suffisamment réprimée, la pédophilie. Mmh. Moi, je serais pour qu'on mette des conditions même de vie qui seraient beaucoup plus dures, parce que souvent, on voit des cellules de pédophiles et on se dit, mais. Non.
Le député Alexandre Allégret-Pilot était venu plusieurs fois sur notre antenne et il avait parlé de peine de mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non. Alex, en premier.
Moi, je suis contre la peine de mort par principe. Donc, quel que soit le. Moi, je suis totalement en faveur d'une perpétuité, d'un exil dans une prison sur une île lointaine. Mais par principe, je suis contre la peine de mort. Donc, quel que soit le sujet, c'est non pour moi.
Mathilda?
Non, je suis contre la peine de mort aussi. Par contre, la castration chimique, oui.
Vous, j'imagine.
Je suis pour la peine de mort.
Ah, très bien.
Ouais.
D'accord.
D'accord.
Et il est de nouveau pas d'accord avec Mathilda. C'est bon, on a réussi. On a réussi.
Ils sont réussis.
Évidemment contre la peine de mort pour énormément de raisons, mais effectivement totalement pour la castration
chimique. Mais si il y avait des individus qui devaient être condamnés à la peine de mort, ce serait en premier évidemment les pédocriminels et notamment les pédocriminels multirécidivistes qui sont finalement les premiers. Je reviens juste sur la promotion. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Baya. On a fait la promotion quand même en France pendant des années de la pédophilie et pas, enfin, une vraie promotion. C'est-à-dire que quand on laissait Daniel Cohn-Bendit parler de à quel point c'était excitant une petite fille de quelques années devant lui et qu'on lui laissait une audience sur une chaîne de télévision et que les gens l'applaudissaient, le laissaient parler sur les plateaux. On a connu cette époque-là quand même en France. On a connu des unes de Libération qui s'appelaient « Apprenons à aimer nos enfants » avec des dessins plus que suggestifs. Pardon. Et ça faisait la une des médias de gauche. Il faut se rappeler quand même que, voilà, que la gauche 68arde a fait la promotion de la pédophilie pendant très longtemps en France.
Pour déconstruire, c'est vos amis déconstructivistes. Pour déconstruire,
mais ça, par contre, on peut faire une belle avancée sur ce sujet-là.
Ouais, je voulais revenir sur le fait, quand je disais que j'étais pour la peine de mort, pour la peine de mort, mais pas pour n'importe quelle raison. Et aussi, je voulais venir sur le fait que les pays les plus autoritaires, comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui les pays avec le plus de sécurité.
C'est pas forcément un modèle non plus.
Enfin,
c'est...
Oui, le problème, c'est que
vous voulez dire quoi par sécurité? Sécurité des enfants?
Eh bien, vous savez, vous pouvez laisser vos objets, déjà, sécurité des enfants, vous pouvez laisser vos objets, parce que vous savez très bien que si vous prenez, si on vous prend au fait en train de voler, eh ben, on peut vous couper la main.
Oui, mais la Corée du Nord, c'est encore plus strict et c'est encore plus sécure, c'est pas une raison.
Enfin, vous prenez un exemple.
Ah oui, mais c'est pas vrai. Oui, en France, quand on voit qu'on peut violer à foison.
Il y a aussi beaucoup de trafic d'enfants dans ces pays-là.
Non, mais que la France soit pas assez sévère, ça je peux vous rejoindre, mais de là à glorifier certains modèles étrangers qui, moi, me paraissent tout autant problématiques au niveau de certaines libertés.
Armand, on est en 2026 en fait. En fait, réveillez-vous en fait là. Réveillez-vous.
Tiens, d'ailleurs, Armand, vous allez nous parler ce soir d'un mal profond. Profondément français, la difficulté presque punitive à créer et faire vivre une entreprise dans notre pays, entre la lourdeur des charges, l'instabilité fiscale et l'empilement des normes, entreprendre relève encore trop souvent du c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est des génies ça. Sacerdoce, ça se dit comme ça, plutôt que de la libre initiative.
Alors tout à fait, et aujourd'hui j'aimerais rendre hommage à tous mes amis auto-entrepreneurs qui ont subi, tout comme moi, beaucoup de difficultés avec cette nouvelle réforme et avec cette augmentation des cotisations qui sont passées pour les BNC, donc les biens non commerciaux, à 25,6%, c'est-à-dire un quart de votre chiffre d'affaires. On en reviendra parce que le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice, j'en reviendrai un peu plus tard.
Vous allez nous faire un cours d'éco,
je vais vous faire un cours d'éco. Je fais partie de ces gens qui ont été un peu déçus par Emmanuel Macron, un peu déçu, vous savez, le fameux un peu déçu. Non, j'ai été très déçu parce qu'en 2017, Emmanuel Macron déclarait quelque chose, il était l'ami des entrepreneurs. Il déclarait qu'il était pour que les Français entreprennent, pour que les Français aient le courage de cesser de travailler pour des patrons et qu'ils soient leurs propres patrons, et qu'ils allaient tout mettre en place pour qu'on soit enfin nos propres patrons et riches, et puis taxés par les amis de Ryan par la suite. Le problème de ça, c'est les promesses qui avaient été faites, c'était plein de baisses. Donc il promettait de baisser les cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs. Mmh. Je viens de vous le dire, elles ont augmenté, donc c'est faux. Il promettait de supprimer le RSI. Ça a été fait. Pour rendre justice à César. Il avait promis de doubler le plafond des micro-entreprises.
Vous avez dit quoi? Faut rendre justice à César? C'est une nouvelle...
C'est deux expressions en une, c'est pas mal. Non, il promettait d'ouvrir davantage l'assurance chômage aux indépendants. Et ça, c'est une mesure que... Bon, voilà. Encore une fois, il y a certaines mesures qu'il a tenues et qu'il a réussi à faire. notamment le doublement des plafonds, la suppression du RSI. Sauf qu'aujourd'hui, être auto-entrepreneur en France n'a plus aucune utilité. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Il avait promis une année blanche avec l'ACRE. C'est fini. On est à 25% seulement d'impôts la première année, alors que c'était remboursé à 100% pour la première année. Et c'est là où j'en arrive. C'est là le véritable coup de gueule. C'est que beaucoup de gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices réels. Lorsque vous dites à quelqu'un, ce mois-ci, j'ai fait 10 000 euros.
Le résultat net et le chiffre d'affaires n'ont rien à voir.
Eh ben c'est le problème, c'est la confusion. Lorsqu'on dit à quelqu'un, j'ai fait 10 000 euros ce mois-ci en auto-entreprise, on vous dit, c'est génial, 10 000 euros.
Non, le chiffre d'affaires, c'est bien avant toutes les taxes.
Ben justement, quand on dit que j'ai fait 10 000 euros, quand on dit, j'ai déclaré 10 000 euros à l'URSSAF, hein, tous les mois, je déclare. J'ai déclaré 10 000 euros. Vous allez me dire, c'est génial, 10 000 euros.
Alors, vous gagnez 2 000.
Vous gagnez très bien. Peut-être pas 2 000, mais on arrive. Il y a un quart déjà qui est prélevé, donc 2 500 euros, je vous le disais, 25,6% qui sont payés, donc il y a moins 2 500 euros. Bon, très bien. Est-ce que je touche pour autant le reste? Toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les frais que j'ai engagés. C'est-à-dire que tout le matériel d'achat, les gens que j'ai dû payer, mon matériel, les différentes licences, tout ce qui est acheté. Enfin, voilà, toutes les dépenses annexes qui sont absolument pas remboursées et qui sont payées. Sachant que la TVA, elle n'est pas remboursée parce que c'est pas une société, ça reste une micro-entreprise. Donc le problème, il est là, c'est que souvent, quand on travaille, là j'ai pris l'exemple de 10 000 euros exprès, mais lorsqu'on touche, imaginons avec un contrat à 3 000 euros par mois. De ces 3 000 euros par mois, en règle générale, il vous reste quoi? 1 300, 1 400, avec tous les risques que vous avez pris. Ça veut dire que vous n'avez aucune couverture sociale. Vous tombez malade, c'est votre problème. Vous voulez partir en vacances, c'est une sécession d'activité, donc c'est vous qui êtes pénalisé. Il n'y a que des DAVS aujourd'hui, vraiment, avec ce taux, encore une fois, de 25,6%, sans le remboursement de la TVA, sans effectivement le remboursement de certaines charges, etc. Il n'y a que des pénalités à être en auto-entreprise.
Et surtout qu'il y a un plafond.
Et il y a un plafond.
C'est
77, je vous dis des bêtises. Il y a un plafond, mais le plafond, bon, on s'arrange toujours pour le plafond, c'est pas le problème.
Très bien.
On peut toujours faire ça en N+1.
Suivez les magouilles d'Armand tous les dimanches à 17h.
Pas du tout, on peut toujours déplacer le chiffre d'affaires en N+1 pour une nouvelle année, pour éviter de toucher le plafond en N+0. Mais le problème n'est pas là, c'est le problème de tout ce qui est engagé comme risque aujourd'hui à être auto-entrepreneur, qui n'est plus aujourd'hui un risque viable pour quelqu'un qui veut entreprendre. Et c'est dommage parce qu'Emmanuel Macron s'était présenté encore une fois comme le sauveur des auto-entrepreneurs français qui nous avait encouragé justement à entreprendre.
C'est très long là. Ryan,
oh là,
vous pensez quoi de...
Wow. C'était long.
Vous êtes d'accord avec Armand?
Oui, totalement.
Vous n'avez pas écouté?
Il a décroché.
Non, je suis vraiment d'accord par contre avec Armand. C'est vrai que Macron avait promis beaucoup de choses pour les auto-entrepreneurs. Moi-même, je commence à entreprendre. Donc, je suis en train de trouver une application en ce moment. Merci, Madame Sandal. Mais c'est vrai que toutes les mesures qu'il a essayé de mettre en place, enfin, qu'il a promis, pardon, elles ne tiennent pas du tout la route. Et c'est pour ça que je déteste ce président.
Oh,
voilà.
Et quelles mesures de gauche vous plaisent par rapport à l'entrepreneuriat?
Bah écoutez, pour l'instant, dans les nouveaux programmes, les programmes officiels ne sont pas encore sortis.
Taxer les riches.
mais oui, je suis pour le fait qu'on taxe les riches. Vraiment.
Ça sera un autre sujet, ça sera la semaine prochaine. Mais sinon, oui, vous êtes.
Oui, bah, les programmes ne sont pas encore sortis, les programmes officiels ne sont pas encore sortis, mais de toute manière, il y a des aides en fait que mettent en place les partis de gauche.
Mais on veut pas d'aide. On veut être moins taxé, c'est tout.
Sûr, on ne veut
on
pas
peut s'aider nous-mêmes, moins taxé,
mais en fait, c'est quand même important pour des personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir entreprendre comme ils le veulent, d'avoir
faut,
des aides.
Bah, il faut se tourner vers le salariat.
Mais pourquoi?
Mais parce qu'il y a plusieurs autres. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que vous me dites, c'est des gens qui ne sont pas capables d'entreprendre, donc on va leur donner des aides.
Financièrement, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas.
Financièrement, il n'y a pas besoin d'aide, hein, justement. C'est le principe de l'auto-entreprise, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des fonds pour entreprendre. C'est le principe même de l'auto-entreprise, c'est d'y aller avec très peu de fonds. En général, il faut très peu de fonds pour entreprendre. C'est ce que Emmanuel Macron
avait en tout cas promis.
Ça dépend du secteur d'activité.
Ça c'est vrai. Si vous voulez ouvrir un food truck, si vous.
Ça c'est vrai.
Il y a quand même besoin de fonds et la gauche propose plus de subventions. Dans leur programme, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore eu de.
Alors moi, je parle de micro-entreprise, pas de entreprendre, okay. C'est différent déjà.
Mais en tout cas, voilà, dans les micro-entreprises, enfin, ça dépend du secteur d'activité, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de subventions qui sont proposées par la gauche que par Macron.
Donc, quand on est entrepreneur, vaut mieux être de gauche que de droite.
Je pense.
Non, mais c'est. Armand, vous êtes d'accord? Parce que je vous vois vous agiter.
Bah non, mais on va vous aider en vous donnant plus d'argent.
C'est gratuit.
Mais en prenant votre propre argent. Juste, me prenez pas mon argent, je me débrouille. Vraiment, je suis un grand garçon.
Et surtout,
je suis un grand garçon, je sais gérer mon argent.
Et surtout, ça qui est marrant avec la gauche, c'est que, comme vous nous le dites, ils proposent plus de subventions, d'aides pour pouvoir aider à entreprendre. Donc, ça veut dire, on va vous subventionner, vous aider à entreprendre. Mm-hmm. Faites de l'argent avec votre entreprise. Et quand vous aurez dépassé tel seuil, on va venir tout vous prendre. Oui. Laissez-nous juste faire notre truc. J'ai pas besoin d'aide. Ne me taxez pas.
J'ai pas
tout
problème à cotiser.
Je veux quand même l'un des pays les plus taxés du monde. Hein.
Pas grave.
C'est incroyable.
Je n'ai pas de problème à être taxé, je n'ai pas de problème à cotiser tant que j'ai un retour sur investissement. Voilà, c'est
pourquoi
ça. C'est
la question. Regardez les postes de dépenses. Les Français ne savent pas où va l'argent.
La question, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je donne un quart
pour l'immigration, fois, pour la sécurité qui n'est même pas. Autre,
pourquoi je donne un quart de mon chiffre d'affaires
dans la carte vitale,
ah oui, la carte vitale. Putain, faut que je sois malade quand même. Hein. Faudrait que je sois malade.
Mathilda, vous êtes d'accord avec Armand?
Ah bah oui, moi je suis totalement d'accord avec Armand. En fait, le problème, c'est que plus personne ne veut entreprendre en France, justement à cause de ça. Les entrepreneurs sont extrêmement taxés. Dès qu'on gagne un peu d'argent, les gens s'expatrient puisque c'est invivable d'entreprendre en France. En tout cas, des récits que j'ai, personnellement, je n'entreprends pas. Mais donc, je pense que c'est un réel problème. Et effectivement, je pense que si on veut garder en France,
Armand, s'il vous plaît, arrêtez de faire bouger la table, c'est insupportable.
Arrêtez de les taxer.
Chaque semaine, Armand fait des
tremblements de terre. Armand essaie de me déconcentrer, voilà.
C'est parce que j'ai l'air de... très en colère.
Il est énervé parce qu'on vient de le taxer là, c'est pour ça qu'il est énervé.
Moi j'en connais un qui est très en colère aujourd'hui et qui n'est venu en partie que pour ça. Ryan.
Oui.
C'est un débat qui ressurgit à chaque échéance présidentielle. Jordan Bardella et Marine Le Pen relancent l'idée d'une interdiction du voile dans l'espace public, cette fois soumise à référendum. Police du vêtement pour les uns, réponse tardive à l'entrisme islamiste pour les autres. Ryan, vous êtes contre cette interdiction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, effectivement, je suis contre cette interdiction. Et en fait, quand j'ai entendu M. Tanguy le dire à la télé, la première question qui m'est venue en tête, c'était comment il allait déterminer le voile que ça allait être. Est-ce que c'est un voile d'une musulmane, c'est le voile d'une chrétienne, celui d'une femme juive, ou bien une femme qui a le cancer? Il comptait instaurer quoi, en fait, précisément? Une police des vêtements? C'est vraiment la première question, en fait, qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression qu'il prend ses électeurs pour des... Je suis désolé du terme que je vais dire, mais pour des cons. Parce qu'il pense vraiment que, demain, Marine est présidente, elle va sauver la France... Et elle va faire retirer le voile à tout le monde, et tout le monde se déshabille. Et comme le collectif Nemesis, on se met comme ça sur une scène, on enlève le niqab.
Ah, Armand, on va les laisser. Hein. Armand, on va les laisser.
Attendez.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, ils veulent juste, la communication qu'ils donnent, en fait, c'est vraiment de prendre les électeurs de Marine Le Pen pour des débiles mentaux qui n'ont rien dans le cerveau. Parce que comment on peut dire à un auditoire « Oh, bon, tu sais, le voile, ça n'existera plus, vive Marine. » Mais parce que les gens pensent ça, en fait. Il y a vraiment des gens qui pensent que ça va se passer comme ça.
Mathilda.
Les gens y croient.
Non, mais là, il y a plusieurs choses. Déjà, pour répondre pour la question de comment on différencie une chrétienne d'une juive, d'une femme qui aurait un cancer et qui porte un foulard, je crois que ça s'appelle le bon sens visuel. Moi, personnellement, quand je croise une femme voilée dans la rue, je peux tout de suite vous dire si c'est une mantille pour aller à l'église. Si c'est une juive, d'ailleurs, elle porte plutôt des perruques hein, plutôt que des foulards, ou une
lesquelles.
Nonne en fait, ou une femme musulmane. Donc voilà, ça s'appelle le bon sens visuel. Et je peux vous dire que dans les villes, nous avec le collectif Nemesis, justement, vous parliez du happening qu'on a fait à Londres, on est dans une petite ville à côté qui s'appelle Luton. Luton qui a 46 mosquées dans sa ville, alors qu'il y a encore 10 ans, il n'y en avait que 3. Je peux vous dire qu'il n'y a que des femmes voilées, et vous ne vous posez pas la question de si c'est des nonnes ou des chrétiennes. Voilà, c'est évident.
Et vous
donc,
avez un problème avec les femmes voilées?
Alors, est-ce que j'ai un problème avec les femmes voilées individuellement? Non, si vous voulez, non. Par contre, j'ai un problème avec le voile dans l'espace public. Ça, oui, évidemment.
Et pourquoi?
Parce que c'est un symbole de soumission de la femme, tout simplement. C'est une oppression de la femme. C'est le symbole d'une oppression de la femme. Et vous allez me dire, oui, mais celles qui choisissent de le porter, c'est un choix. Parce que je sais que c'est un argument qui revient souvent.
Non, c'était pas ça la question qui m'est venue.
Quelle est la question qui vous est venue?
La question qui est venue, c'était en voyant cette vidéo, parce que je sais que vous enlevez votre voile sur une scène pour...
Un voile intégral, en l'occurrence.
Un voile intégral, un niqab, je tiens à le préciser. Pour venir...
Vous faites la distinction entre voile islamique et niqab?
C'est-à-dire?
Est-ce que vous êtes contre, par exemple, le niqab?
Écoutez, moi, pour le fait que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Si elles veulent porter un string, elles portent un string. Si elles veulent porter un niqab, elles portent un niqab.
Il y a des lois contre ça aussi, hein, d'ailleurs.
Une mini-jupe, elles portent une mini-jupe.
Mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'aller dans la rue si vous êtes tout nu.
Mais...
Ça s'appelle de l'exhibition sexuelle.
De l'exhibition sexuelle. Est-ce que je suis pour le fait que tout le monde se balade à poil? Non, mais après...
Vous disiez en string, oui.
Oui,
non. C'est pour des ballons, là, frontière et mail.
Il manque quelques ficelles, en vrai.
J'ai hâte de voir cohabiter les strings avec les niqab intégrales. Ça va être folklorique, je pense.
Non, mais je disais ça, c'était plutôt imagé, mais je suis pour la liberté individuelle, et quelle qu'elle soit. Voilà.
Oui, mais qu'est-ce que la liberté individuelle? En fait,
excusez-moi.
Attendez, Ryan, ensuite, Mathilda, vous allez répondre.
Excusez-moi. Juste ce que je voulais dire par rapport au fait que vous ayez mis un niqab et que vous l'ayez enlevé en solidarité aux femmes qui sont oppressées en Iran. On connaît, c'est à peu près ça à chaque fois ce qu'on entend. Est-ce qu'en faisant un striptease sur une scène, c'est aider des femmes qui sont oppressées. C'était quoi le message qu'il y avait derrière?
Vous voulez dire que quand on enlève un voile intégral, c'est un striptease?
Bah non, non, j'ai pas dit que quand on enlève un voile intégral, c'est un striptease. Ouais. Quand c'est des filles qui ne sont non musulmanes, qui montent sur une scène pour faire leur petit show devant des caméras, parce que si c'était pas filmé, vous l'auriez pas fait. Mm-hmm. je me dis
oui,
bien que
ça,
Mathilda...
Ça s'appelle de l'agite propre. Hein,
non, mais je me dis bien que Mathilda, à l'abri bus, n'enlève pas son hijab avant de monter dedans.
C'est une action militante en soutien, enfin, c'est logique.
Oui,
non, mais s'il n'y a pas de caméra, effectivement, on va pas le faire.
Oui,
pas
oui, je le fais pas chez moi dans ma salle de bain tous les soirs.
Je vois pas l'intérêt.
C'est pour avoir aussi un impact médiatique, c'est pour du militantisme.
Est-ce que vous pensez vraiment que derrière ça, vous avez aidé des femmes?
Oui, je pense. Tout à fait. Je pense, je vous le répète encore une fois, le voile, c'est un symbole d'oppression. Donc, en fait, dire aux femmes, regardez, vous pouvez le retirer, votre voile, parce qu'en fait, on n'est pas en Afghanistan, on est en Occident. Là, en l'occurrence, c'était à Londres, mais on le fait aussi en France, etc. On fait des actions contre le voile intégral, notamment la burqa, parce que, justement, visuellement, c'est beaucoup plus parlant. C'est une façon de dire aux femmes, vous êtes libres et vous êtes libres de ne pas le porter. Parce qu'on parle souvent des femmes qui sont libres de le porter en nous disant que ce serait un choix de leur part et que donc on ne pourrait pas aller contre ce choix. Comme vous disiez, elles ont le choix de se balader en string ou en voile intégrale. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, si vous voulez. J'ai pas envie que les gens se baladent à poil et j'ai pas non plus envie que les gens se baladent couverts de la tête aux pieds. Et j'ai pas envie qu'on efface les femmes de l'espace public.
Et vous comptez porter une perruque pour les femmes juives oppressées ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Non? Ah, parce qu'il y a que les femmes musulmanes qui sont oppressées.
Alors, je pense très sincèrement que les femmes musulmanes sont trop oppressées, oui. Je pense très sincèrement que le voile est
et
un symbole d'oppression.
Et pourquoi vous avez eu des retours sur le fait que les femmes musulmanes, précisément, étaient...
Oui, bien sûr, je travaille dans une association qui aide des victimes chaque année. Donc, des anciennes musulmanes, j'en vois littéralement tous les jours. Et je peux vous dire que la pression qu'on met à ces jeunes filles pour se voiler dans les cités, elle est absolument abominable. Et il suffit de regarder les femmes qui enlèvent leur voile, parce qu'on dit elles ont le choix de le porter. Mais est-ce qu'elles ont le choix de le retirer? Vous avez déjà vu des musulmanes qui enlèvent leur voile, comment elles sont traitées? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une candidate de The Voice. Alors, son prénom m'échappe, je suis désolée.
Lilia, non, c'était pas
non.
Ça.
Non,
je me souviens, elle avait reçu.
Et elle portait, elle
le
portait
harcèlement
donc,
sur Twitter.
Ouais, tout à fait. Pendant l'émission, dans toutes les saisons de The Voice, elle portait donc un foulard. Elle était musulmane. Enfin, elle est musulmane, j'imagine qu'elle est encore. D'ailleurs, il y a des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile aussi, je tiens à le préciser. Et ensuite, elle continuait de chanter sur les réseaux sociaux. Elle a finalement décidé un jour d'enlever son voile. Et alors là, elle a reçu un harcèlement, mais franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était odieux. Il fallait regarder les commentaires. Elle avait des insultes. J'ai même pas envie de les répéter ici, tellement c'est vulgaire. Donc voilà, juste posez-vous la question. Des jeunes filles en cité qui grandissent dans des endroits où, en fait, quand on ne porte pas le voile, on est une femme impure. Et quand on enlève son voile, comment on se fait ostraciser par sa famille, par sa communauté, par l'endroit dans lequel on vit?
Vous reconnaissez qu'il y a quand même une pression parfois communautaire du fait du port du voile?
Alors écoutez, je ne suis pas porte-parole de la communauté musulmane, mais alors ce que les gens écrivent sur Twitter aux femmes musulmanes, j'en ai un peu que faire parce que je suis ni une femme ni voilée. Il y a sûrement comme partout des harceleurs en ligne, ça je l'admets, hein, je
non,
vois
pas
bien parfois.
Non mais pas qu'en ligne, hein. Moi je vous
passe.
Parle de famille.
Mais
en fait
moi ce qui me dérange
qui
en
rejette,
fait dans cette action, ce qui me dérange vraiment dans cette action, c'est que vous dites piètre défenseuse des femmes musulmanes voilées qui sont oppressées et tout ça. Alors vous avez des condamnations parce que vous avez profané sur des banderoles.
On parle pas
des propos.
Là on parle pas des actions de Némésis là.
Oui, non mais c'est un global. En fait. Ça me fait rire de me dire ah voilà on aide les musulmanes
non,
mais on met sur des banderoles des écritures
votre
un
coup
peu
de gueule porté votre coup de gueule porté sur le fait d'interdire le voile et la faisabilité aussi de cette mesure. Est-ce que pour vous pensez je pose la question à tous les chroniqueurs, est-ce que c'est faisable de mettre en place des amendes contre
c'est le cas déjà pour le voile intégral, par exemple. Enfin, j'imagine que vous êtes au courant, mais on n'a pas le droit, par exemple, de porter un niqab dans l'espace public. On n'a pas le droit de recouvrir intégralement son visage pour des questions de sécurité, notamment. Et en fait, ces femmes-là, on leur met des amendes. Il n'y a pas de problème. Donc, je vois pas pourquoi c'est pas faisable de pas le faire à une plus grande échelle.
Alex.
Moi, en fait, ce qui m'embête avec cette mesure, c'est comme vous l'avez dit, elle revient à chaque élection, ça revient même tous les ans dans le débat public. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que, en théorie, je suis contre cette mesure. En théorie. Cependant. Quand j'entends justement des pro-voiles qui le défendent avec des arguments comme vous venez de le faire, en fait, je reprends ce que vous nous avez dit que le RN prend ses électeurs pour des cons.
Oui.
Mais en fait, justement, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est vous qui nous prenez pour des cons à nous faire croire qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, ce que vous avez cité, on ne peut pas savoir visuellement si c'est une femme malade ou une nonne ou autre. En fait, vous faites semblant de ne pas comprendre. C'est vous qui faites semblant de ne pas voir la réalité de ce qui se passe en France. Donc vous voulez nous faire croire que le RN prend ses électeurs pour des cons, mais en fait c'est à force de se retrouver face à des arguments comme ça que des gens en viennent à être en faveur de cette mesure. Parce que vous faites semblant de ne pas comprendre. On a aussi l'impression que pour vous, quelqu'un qui n'est pas musulman n'a jamais lu le Coran, ne sait pas du tout ce qui est écrit, et quelqu'un qui n'est pas musulman est totalement inculte sur ce sujet.
Je n'ai pas dit ça.
Non, après, attention, la religion musulmane n'est pas interdite en France.
Non, mais
la liberté de culte, heureusement qu'elle existe.
Non, mais en fait, ça sous-entend que quelqu'un qui n'est pas musulman ne sait pas du tout comment ça fonctionne, ne peut pas être au contact de musulmans qui lui en parlent, ne peut pas avoir lu aussi le Coran et voir un peu ce qui s'y trouve. Et j'ai l'impression que justement, les gens qui viennent avec les arguments que vous nous avez opposés, c'est vous qui nous prenez pour des cons à croire qu'on est stupide au point de pas savoir comment ça fonctionne. Moi, en théorie, je suis contre l'interdiction du port du voile, mais en fait, vous faites semblant de ne pas comprendre le symbole et la portée de cette mesure qui a juste vocation à créer une unité dans la nation. C'est juste ça. Et comme l'expliquent beaucoup de personnes qui sont en faveur de la suppression du voile, c'est qu'en fait, c'est un élément qui montre qu'il y a une scission au sein de la nation.
Non, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que c'est un peu un symbole aussi de... C'est comme les femmes, par exemple, au restaurant, qui ne souhaitent pas parler au serveur masculin. Il y a une forme de communautarisme aussi qui comme vous parliez de scission, c'est exactement ça, qui divise aussi les Français. Armand aime bien utiliser le terme de communauté nationale, mais c'est vrai que là, ça crée effectivement des divisions. Donc vous disiez juste avant que vous étiez contre
Moi, en théorie, je suis contre l'interdiction du port du voile, mais en tout cas...
Pourquoi ?
Parce que pour moi, la religion, quelle que soit la religion, c'est quelque chose qui est sacré, et en soi, je ne suis pas en désaccord, parce que oui, j'ai déjà lu pas en entier, mais j'ai déjà lu le Coran. Je côtoie énormément de personnes musulmanes dans mon entourage. Je suis désolé, le voile est un signe de soumission. Par contre, la personne qui veut en être, il n'y a pas de problème. Chacun, justement, comme vous l'avez dit, je suis pour la liberté. Si quelqu'un accepte de son plein gré cette soumission, c'est, en fait, ça ne me regarde pas moi. Par contre, ne faites pas semblant de ne pas comprendre le symbole de cette mesure. Et surtout, par exemple, quand vous nous dites « Oui, comment on va différencier une femme musulmane d'une femme qui va à l'église ?» C'est vous qui nous prenez pour des cons, je suis désolé. Vous faites semblant de ne pas voir comment fonctionne la France.
Écoutez, juste petit rappel, il n'y a pas que des niqabs et des gilbèbes. Il y a plusieurs types de voiles.
Bien sûr.
Donc moi, parfois, j'ai déjà vu des femmes qui étaient voilées.
J'ai eu peur, je croyais que vous alliez nous dire, moi, parfois, je porte un voile.
C'est ce qu'Armand disait au début, ça fait partie de l'exception, et c'est vous qui nous prenez pour des cons, en fait, semblant tout. De ne pas comprendre, je suis désolé.
J'ai déjà vu des femmes qui portaient un voile, et je ne savais pas, en fait, elle était
quoi. Combien de fois dans votre vie c'est arrivé?
Bah, plusieurs fois.
La nouvelle génération qui ne se voile pas comme la grande tante qui
Jordan Bardella avait parlé du catalogue de la redoute des voiles. On va pas commencer à essayer de comprendre tel voile.
Je connais pas.
Plus important, c'est le symbole. Vous comprenez aussi que pour beaucoup de Français aujourd'hui, quand je parle de Français, c'est Français au sens large. Il y a beaucoup de Français qui sont choqués de voir certaines régions françaises avec plein de personnes voilées dans les rues.
Mais pourquoi ?
Ça peut les choquer.
Mais pourquoi ça les choquerait ?
Parce que en fait, c'est un symbole d'oppression. Cacher une femme, ça veut dire tu es sexuellement désirable et donc on te cache du regard de l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est d'autant plus choquant quand on voile par exemple une fillette, parce qu'on lui inculque en fait qu'elle est uniquement un objet de désir et qu'elle ne vit qu'à travers en fait l'objet de désir qu'elle est. Et donc c'est ça en fait, voiler une femme. Donc est-ce que vous avez envie de faire disparaître la moitié en fait de la population mondiale sous un voile en France ? Bah moi en fait, désolée, c'est pas la société que je veux. J'ai pas envie que les femmes se cachent dans la rue. J'ai envie que les femmes puissent être libres et la liberté.
Vous pouvez pas les empêcher, je viens de
vous expliquer pour le choix. En fait,
je vous coupe parce que vous avez posé une très bonne question tout à l'heure et j'aimerais qu'ils répondent à votre question.
Oui, mais...
Quand vous avez dit, elles font le choix de le mettre, est-ce qu'elles ont le choix de le retirer ? Vous ne l'avez pas répondu à ça.
Bien sûr qu'elles ont le choix de le retirer, je suis qui pour... Je suis pas le
Vous l'avez dit, vous n'êtes pas représentant de tous les musulmans de France.
Voilà, oui, je ne suis pas représentant de tous les musulmans de France.
Mais vous reconnaissez qu'il y a quand même une pression, on a les réseaux sociaux pour exemple, mais dans certains quartiers, il y a quand même une pression de par le voisinage, de par les amis de la famille.
Une sorte de
honte à retirer le voile. Il y a même des femmes qui témoignent sur les réseaux pour dire qu'elles portent le voile pour pouvoir aller acheter leur baguette de pain, parce que sinon elles sont mal vues.
Bah, sortez-moi un extrait.
Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux.
Venez passer une journée avec moi, vous ressortez avec 70 extraits. Venez passer une journée avec moi.
La question du choix, simplement, celles qui le choisissent, j'ai envie de vous poser la question inverse. Enfin, un autre exemple, par exemple, celles qui choisiraient, par exemple, de sexiser. Est-ce que vous seriez d'accord pour ça ?
Mais je suis pour toutes les formes
de liberté individuelle.
D'accord. Donc non, mais si quelqu'un vous dit j'ai envie de mutiler les parties génitales ou de le faire à mon enfant...
Non, mais qu'on remette les choses au clair. Qui suis-je pour aller voir quelqu'un qui a envie de faire quelque chose?
Mais qui êtes-vous?
Ça s'appelle faire société, en fait, que de mettre des lois pour unir les gens et
surtout,
vivre ensemble.
Et surtout, qui êtes-vous? Vous êtes un administré qui participe à la nation. Bien sûr que vous avez un mot à dire sur ce qui se passe dans ce pays-là.
Et j'ai un mot à dire, bien sûr, mais là, l'excision et le voile, il n'y a aucun rapport. S'exciser et porter
c'est,
en foulard.
C'est une pratique culturelle. À ce moment-là, si on importe le voile, on va jusqu'où? On importe jusque quoi? On peut importer
c'est
l'excision,
par exemple. C'est une pratique culturelle où, en France, l'excision?
Ah bah, 10% des femmes en Seine-Saint-Denis sont excisées.
Bah, je suis désolé pour elle, mais en tout cas, pour toutes ces femmes-là, apparemment, ça ne s'est pas passé en France, ça s'est passé dans leur pays d'origine.
Non, effectivement. Retour à leur pays d'origine pendant les vacances, mais c'est des femmes qui habitent en France, puisque le chiffre vient de la Seine-Saint-Denis. Donc,
Armand, je ne vous ai pas beaucoup entendu.
Et bien sûr que je suis contre l'excision, enfin, je tiens à le préciser, mais pour le coup.
Non, moi, je résumerais ça par il faut combattre l'islamisme, mais avec les musulmans et pas contre les musulmans. Pour moi, déjà, cette loi, premièrement, elle est totalement inconstitutionnelle. Elle va à l'encontre des libertés fondamentales. Qui sont la liberté de culte, qui sont la liberté tout simplement. Donc déjà, en termes de légalité, en termes de juridiction, cette loi, elle n'est pas faisable, premièrement. Ensuite, sur le voile, moi je pense qu'il y a effectivement des jeunes femmes. L'islam en France n'est pas l'islam dans les autres pays. Les musulmans en France vivent complètement différemment d'un islam qui se vit à Singapour, qui se vit, tout à l'heure on parlait d'Arabie Saoudite, qui se vit au Qatar. Il y a des filles aujourd'hui qui choisissent ce voile. Moi, je serais pour, et c'est un travail qui est beaucoup plus difficile, effectivement, mais qui serait d'autant plus bénéfique sur le long terme, celui de l'éducation, celui de l'apprentissage. Mathilde l'a rappelé, c'est un signe d'oppression. C'est vrai, c'est un signe d'oppression, il est vrai. Mais il y en a qui le choisissent, ce signe d'oppression. Il y en a qui choisissent cette soumission en se disant « je suis soumis à Dieu et non pas à mon père ou non pas à mon frère ou autre ». Il faut faire un travail pédagogique. Je pense que sur le long terme, on est beaucoup plus gagnant à lutter, effectivement, avec les femmes musulmanes main dans la main contre l'islamisme, plutôt que de les sanctionner comme ça, avec ce genre de loi, et de les pousser au bras des barbus, qui vont se faire un plaisir de les accueillir.
Des barbus, vous voulez dire.
Des barbus pas comme moi, des barbus...
J'ai dit auprès de vous, Armand, rien à voir.
Non, mais qui vont se faire un plaisir de les accueillir, et de les engrainer, et au contraire, de les radicaliser d'autant plus, et d'en faire de potentiels dangers. Je pense qu'on a tout intérêt plutôt à travailler avec la communauté musulmane main dans la main, pour effectivement avoir un espèce d'islam de France, enfin, qui se réformera de lui-même, plutôt que de les combattre les
Donc
musulmans.
Vous pensez que porter le voile, c'est un chemin vers un danger?
J'ai pas dit ça, j'ai dit que...
Bah, vous avez dit que s'il apporte le voile, il faut...
On va passer à la deuxième partie d'émission, on a jamais fait autant, on a jamais pris autant de temps pour un début d'émission, donc c'est qu'il y a du débat. Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Très chers auditeurs, vous écoutez toujours, on ne va pas se mentir, sur Radio Courtoisie de 15h30 à 17h. Nous avons pris beaucoup plus de temps que d'habitude en première partie d'émission. Et c'est que, comme on disait, les débats sont intéressants. On va passer à ma chronique préférée, c'est la vôtre, Alex. On commence votre tournée de l'info avec le festival Rock en scène, où il s'est passé beaucoup de choses cette année.
Alors exactement, énormément de choses, hein, même. Je précise que cette année 2026 marquait la 22e édition du festival et elle a très bien marché puisque les organisateurs ont enregistré plus de 175 000 visiteurs. Et je dis bien marché car il faut noter que cela représente quand même 27 000 festivaliers de plus par rapport à l'an dernier. Mais cette édition, elle a fait le buzz pour une raison bien précise cette année. Une vidéo a été relayée massivement sur les réseaux sociaux. On écoute et vous me dites si ça vous fait penser à quelque chose.
C'est quelqu'un qui a éternué en boucle.
C'est inaudible.
Non, alors en fait vous avez le son mais pas l'image. Du coup je vous invite tous à aller voir cette vidéo sur les réseaux. En fait pendant cette prestation d'un groupe de rock britannique, on pouvait voir apparaître en gros sur l'écran géant au fond de la scène Fuck Marine Le Pen. C'était pendant cette prestation. Et l'organisation du festival, elle a partagé fièrement l'extrait sur ses réseaux. Alors je rappelle quand même 2-3 choses. Mathieu Pigas est organisateur du festival. Il a lui-même repartagé la séquence sur ses réseaux sociaux. Et enfin, l'audiovisuel public est partenaire de l'événement. Alors, je voulais aussi que vous entendiez la réaction de Manon Aubry, à qui on a demandé si elle avait été choquée en voyant ça. Je vous laisse découvrir la réponse.
Fuck Marine Le Pen, ça vous a choqué lors du festival Rock en scène? sur la scène.
Non, non, on peut insulter l'adversaire. Il y a une colère dans notre pays à l'encontre de politiques d'extrême droite, je la comprends évidemment, et cette colère, moi je souhaite qu'elle puisse s'exprimer d'abord dans les urnes.
Non mais attendez, mais là c'est d'un vulgaire.
Ah non, mais
c'est
non,
d'un vulgaire. Alors déjà, il y a un anglicisme, moi ça me dérange qu'on dise les choses. Hein. Non, mais moi je trouve ça scandaleux parce que j'ai l'impression que ces derniers jours, on a entendu la désobéissance, on a entendu plein de termes comme ça, pour le coup, la gauche a quand même pris pas mal de pouvoir hein, sur les médias, on les entend, mais pas pour dire des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on ne connaît aucune ligne de leur programme, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire pour les Français.
Parce qu'il faut le lire, le programme.
Il y a que des attaques, il y a que des insultes envers les candidats de droite ainsi que leur électorat. Donc moi, c'est pas étonnant de voir ça, mais c'est d'un vulgaire sans nom. Ryan, vous, vos amis, est-ce que vous êtes pour le fuck Marine Le Pen ?
Oui, je suis pour le fuck Marine Le Pen. J'ai pas envie de vous choquer, mais honnêtement, oui, après, il manquait un peu la musique de fond, la jeunesse en merde, le Front National, il manquait cette musique d'entrée. Mais
oui. Donc vous, c'est plus la mise en scène qui vous a dérangé.
C'est la DA.
C'est la DA.
C'est la DA qui va pas exactement. Non, mais je suis pour le fait. Oui, on a le droit d'insulter l'adversaire en politique.
Si il y avait eu exactement la même chose, mais avec écrit fuck Mélenchon, ça vous irait aussi.
Bah, du coup, c'était. Alors, une de
non,
mes
mais
questions.
Attendez. Ryan, répondez à Armand, s'il vous plaît.
Alors, écoutez, ça n'aurait pas été dans la ligne directrice de mes idéologies, donc non, je ne serais pas allé.
Ah, non, mais... vous auriez accepté, je veux dire.
Oui,
par vos impôts, que l'ensemble des Français insultent, d'accord.
C'est la liberté d'expression.
Donc, Armand, vous vous demandiez tout à l'heure pourquoi vous payez des taxes en tant qu'entrepreneur. Eh bien, c'est pour fuck Marine Le Pen à Rock en Seine. C'est vraiment fabuleux.
Mais voilà. Vous comprenez qu'il y a des électeurs qui peuvent être choqués et qui se sentent aussi blessés.
Bah, écoutez, je peux l'entendre que les gens soient blessés. Mais après, bon, écoutez, ça s'appelle la liberté d'expression. Chacun peut dire ce qu'il veut, en fait. Enfin.
Même d'accord. Si on met, donc je peux vous dire nique ta mère, c'est pas grave, c'est ma liberté.
Doucement quand même.
Non mais c'est ma liberté d'expression. Enfin, je veux dire, c'est
votre liberté d'expression.
Donc j'ai le droit de vous insulter.
Retourne nique ta mère toi aussi. Ça y est, on y va.
Non mais là, attendez.
Bah pour le coup, moi je suis.
Excusez-nous, chers auditeurs, mais voilà, il faut un peu de franc parler.
Non, là-dessus, moi je suis totalement d'accord avec Mathilde. C'est-à-dire qu'en fait, Rock en Seine, encore une fois, c'est financé par les finances publiques. Même dans cet auditoire-là, moi je suis persuadé qu'il y avait des gens qui votaient Front National en fait. Pourquoi ils se sont obligés de subir ce genre de message ? J'ai une anecdote, moi je vais régulièrement au Solidays. Et quand je vais avec des copains au Solidays.
J'ai du mal à vous imaginer en Bermuda au Solidays avec une bière à la main.
Bah, pour le coup, c'est un endroit que j'aime bien, je trouve que voilà, l'ambiance est bonne, etc. Mais c'est extrêmement politisé. Et à chaque fois que je vais avec des copains, on parle pas politique. Hein. Toujours le fameux parle pas politique. Alors que je suis persuadé que dans ces Solidays, et c'est souvent le cas d'ailleurs, on finit par retrouver des groupes qui nous sont un peu similaires, avec qui on partage certaines idées, et ben on finit avec quand même une quinzaine, voire une trentaine de personnes qui sont plutôt de droite. Et
encore
qui
une fois, la table ne vous a rien fait, s'il vous plaît.
Oui, pardon, désolé. C'est vrai que je suis un peu violent avec la table.
Mathilda, vous êtes choquée?
Oh, mais je suis pas choquée du tout, en fait, ça se veut.
C'est ringard en plus.
Mais c'est ringard, c'est ringard, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Mais si vous pouvez juste arrêter de le faire avec l'argent public, en fait, c'est. Voilà, juste s'il vous plaît, arrêtez en fait de nous faire payer des impôts pour ça. Voilà, oui. C'est en fait le service public fait déjà ça tous les jours. Si on pouvait juste dans un festival arrêter un peu de mettre un message politique une fois de temps en temps pendant quelques heures pour les gens qui écoutent de la musique, ça serait bien en fait.
Surtout Alex. Que c'est le même, c'est même pas subversif quoi.
Mais oui, c'est nul.
C'est votre sujet, j'aimerais avoir votre avis.
Moi je trouve ça enfantin, puéril, qui n'a aucune plus-value. Voilà, c'est. Et alors en plus, moi ce que je trouve encore plus fou, c'est que c'est un groupe britannique. Ou genre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont même pas en France, donc qui ne participent même pas à notre élection. Mais ce sont des gens à mettre fuck Marine Le Pen. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que je me dis que c'est même pas une idée du groupe en question, du groupe britannique qu'on a entendu dans le sonore. Je pense que c'est soit une idée de l'organisation,
Picasso,
ou une idée
je ne sais pas. Ce qui est très choquant, vous l'avez dit, c'est avec notre argent.
Hey.
C'est-à-dire que je vote pour qui je veux, vous votez pour qui vous voulez, etc. Mais on m'insulte. Et je donne de l'argent pour qu'on m'insulte. Mais qu'on insulte mon vote.
Mais vous le faites tous les jours, hein, grâce au service public.
Bah,
déjà.
Oui, oui.
Mais voilà.
Mais c'est encore un peu plus. On me le rappelle un peu plus.
Voilà. Et j'aurais d'autant été choqué si ça avait été pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Factuellement, c'est juste que je trouve ça ridicule. Non, je trouve ça juste ridicule.
Non, mais ça aurait été tout aussi ridicule.
Ouais,
honnêtement,
ça
aurait été tout aussi ridicule. Il n'y a pas à mettre de politique dans tout.
C'est encore une fois pour diviser les Français pour rien sur des petites bêtises.
Moi, je trouve ça plutôt amusant.
Visiblement, on passe d'un extrême à l'autre puisque votre prochaine info concerne un élu de la France insoumise. Cette fois-ci, encore les amis de Ryan. Alors dites-nous qui a fait des siennes dans les rangs des insoumis.
Cette semaine, c'est le député des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. Alors, on ne l'avait plus entendu depuis sa non-élection à la mairie de Marseille.
C'est votre ami, ça, aussi, Mathilda.
Ah, on s'entend très bien.
C'est vrai ? Bah, écoutez, on ne l'avait plus entendu depuis sa non-élection à la mairie de Marseille. Mais c'est la rentrée, y compris pour lui. Alors, il a été placé en garde, en garde à vue la semaine dernière après une altercation avec des policiers. On a un extrait, je vous explique juste après ce qui s'est passé.
J'ai tapé la préfète de police, elle arrive, j'ai juste votre identité.
Ah ouais, aucun problème.
Simplement.
On va travailler.
Monsieur. Ouais, mais il y a des caméras dans le...
Oui.
Dans le bâtiment, c'est ça que vous savez pas en fait.
Et j'espère.
Tu m'as mis la main, tu m'as mis sa main sur le torse, tu me dis tu pues de la gueule.
Ouais.
Et je dis tout le monde me déteste. Je suis chez moi ici. Poussez-vous ici, c'est moi. Vous n'avez pas montré de plaque, je sais pas qui vous aide,
y a pas de souci. Voilà. On travaille pour
montrez-moi la plaque. Montrez-moi votre plaque, c'est chez moi, je veux savoir.
Non, je suis d'accord.
Montrez-moi la plaque. Voilà, là je suis rien.
Alors l'altercation, elle remonte au lundi 24 août. Sébastien Delogue rentre sagement chez lui, sûrement après une journée de dur labeur, quand il s'aperçoit que trois policiers sont en pleine intervention dans son immeuble. Alors selon le procès-verbal des policiers, Sébastien Delogue aurait physiquement tenté de leur barrer l'entrée, tout en proférant de jolis noms d'oiseaux, à leur encontre. Ils ont fini par porter plainte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. De son côté, le député insoumis affirme que les policiers n'étaient pas identifiables et qu'il leur a demandé leur carte professionnelle pour les laisser aller plus loin. C'est là que les policiers se seraient mis à le suivre jusqu'à son appartement, puis l'auraient insulté avant de le frapper au niveau de la poitrine. Et je terminerai quand même par dire que Sébastien Delogue aurait effectué environ 8 heures de garde à vue et qu'il a décidé lui aussi de porter plainte, mais qu'il devra comparaître devant le tribunal correctionnel le 13 novembre prochain. Alors à votre avis, qui ment dans cette affaire ? Policier, Delogue, policier ?
Mathilda. Vous n'êtes pas choisie par hasard.
Oh, mais moi, je ne suis pas juge, vous savez.
Vous avez l'air d'être heureuse.
Alors, Sébastien Delogue et moi avons une histoire tumultueuse. Nous sommes rencontrés parce que j'ai voulu le questionner sur le fait qu'il siégeait à l'Assemblée nationale avec Raphaël Arnaud, qui a menacé de mort Alice Cordier, la présidente de notre collectif. Ce à quoi il m'a répondu « tu pues de la gueule ». Voilà, donc notre relation s'est arrêtée là.
Visiblement, il aime bien dire ça. Hein,
et alors, quand j'ai vu le communiqué et que j'ai relu cette phrase, je me suis dit, purée, mais Madeleine de Proust, en fait. Waouh, ok, c'est donc sa réflexion favorite, c'est ainsi qu'il parle aux gens.
Donc vous ne puez pas de la gueule.
Bah écoutez, finalement, priori, tout le monde est encore sur le plateau, ouais. Donc, ça va.
C'est parce qu'on n'a pas le choix.
Autant pour moi. Ryan.
Honnêtement, je rejoins Mathilda, je ne suis pas juge non plus, mais... écoutez, le fait que la police n'ait pas présenté leur carte, alors que c'est quand même le droit minimum qu'un citoyen a de demander à quelqu'un qui se prétend policier sa carte professionnelle. Après, le fait qu'il ait fait 8 heures de garde à vue pour cette altercation, je trouve ça un peu injustifié. Le fait que ça aille jusqu'à des dépôts de plainte et tout ça... Je trouve que cette histoire elle est allée un peu trop loin pour quelqu'un qui est rentré chez lui.
Donc, Sébastien Delogue est donc victime ?
Je ne sais pas, peut-être. J'en ai aucune idée.
Armand.
Ça, pour le coup, il a raison. On verra bien le jugement et on verra bien ce qu'il en est des faits. Cependant, on entend quand même qu'il fait obstruction à une intervention policière. Alors oui, les policiers sont censés montrer leur carte, se présenter avant toute intervention. Sauf qu'en fait, il y a la réalité des faits. S'il y a un meurtre qui vient d'être commis, ils vont pas commencer à vous montrer la carte pendant que l'autre est en train de s'enfuir, en fait. Il faut intervenir parfois.
Il n'y avait pas de meurtre.
Alors, on n'en sait rien. Pourquoi ils ont intervenu sur ce domicile? Pour interpeller quelqu'un. Peut-être que cette personne est un pédophile, peut-être que cette personne est un vendeur de drogue, peut-être que c'est un meurtrier.
Vu que j'ai fait mon travail, j'ai la réponse à cette question. C'est un homme recherché pour vol. Et qui a du coup été interpellé après cette altercation.
Donc qu'il faut interpeller. Donc est-ce qu'on laisse s'enfuir ce voleur? Parce qu'en fait il faut d'abord se présenter et se serrer la pince avant d'aller pourchasser un criminel.
Ça prend pas longtemps de
dégainer. Oui, mais parce que Sébastien Delogue avait envie de faire un peu de zèle. Monsieur le député avait envie de montrer.
Il est quand même député de la République, il fait obstruction à un travail policier. Je suis d'accord.
Alors...
Et en plus je me permets juste de rajouter, parce que je pense que quand même, oui, ils n'ont pas montré leur carte, mais des policiers, ils sont trois, il y a quand même un attirail qui montre que ce sont quand même des policiers en intervention. Alors, je sais que la France Insoumise
Il a voulu refaire une Mélenchon, c'est moi la République, c'est
exactement,
moi.
Exactement, c'est ce qu'il a voulu faire. Par contre, je sais que la France Insoumise veut retirer le port d'armes aux policiers, mais pour l'instant, ils l'ont toujours, donc je pense que c'était assez visible quand même que c'était des policiers en activité.
Je ne savais pas si elle serait là cette semaine, mais elle est bien de retour. Et d'ailleurs, Armand, vous l'attendiez. Votre série Un jour un candidat. Alors, qui est cette nouvelle personne qui s'ajoute à cette longue liste des candidats à la présidentielle?
Oui, c'est vrai, parce que Armand m'a demandé avant de prendre l'antenne s'il y avait cette série aujourd'hui. Il y a bien la série Un jour un candidat. Écoutez, honnêtement, quand on a commencé l'émission, je pensais même pas qu'on pourrait tenir si longtemps avec cette série. Mais comme quoi, on a eu le flair. Donc,
et il y en a plein d'autres qui arrivent.
Et il y en a sûrement plein d'autres. On a du temps jusqu'à l'élection, jusqu'à la déclaration officielle des candidatures.
Et d'ailleurs, Armand, vous.
Pas encore. J'hésite encore un peu.
Je pense qu'Armand va être le dernier.
Vous ne serez pas candidat.
Je sais pas encore. Finalement, vous m'avez fait hésiter à chaque fois. vous me relancez là-dessus. Effectivement, j'hésite. Peut-être que je ferai comme tout le monde. Je serai candidat et je rejoindrai l'un des deux camps qu'on sait déjà qui sera au second tour.
Je pense qu'Armand va être le dernier de la série Un jour
incroyable.
Il attend. Alors cette semaine, le protagoniste de la série Un jour un candidat, c'est Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a profité d'un passage au JT de 20h de TF1 il y a quelques jours pour annoncer aux Français son intention de candidater pour occuper la plus haute fonction de l'État. Annonce très solennelle hein, avec le ton de la gravité de la situation. Du Olivier Faure tout craché, je vous laisse écouter ça.
Êtes-vous, vous aussi, candidat à la primaire socialiste ?
Oui, je suis candidat à la présidence de la République et je le fais parce que je suis... Je veux porter une France plus juste. Nous avons, nous, Français, été fiers d'une grande nation, industrielle, scientifique, diplomatique, sanitaire. Et ces 10 années qui viennent de s'écouler ont été un immense gâchis. Un immense gâchis, et donc parce que j'aime profondément notre pays, eh bien je veux tout reconstruire, tout rebâtir, tout réparer.
Alors, je le reprécise comme vous venez de l'entendre, hein, et comme plusieurs de ses camarades, Olivier Faure n'est pour l'instant seulement candidat qu'à la primaire de la gauche, donc il n'est pas officiellement sur la vraie ligne de départ pour la course à l'Elysée. Mais du coup, voilà, je voulais savoir votre avis. Olivier Faure dans la primaire de la gauche, quelle chance de l'emporter ?
Absolument ravi. Je pense qu'il a absolument toutes les capacités nécessaires pour faire peut-être mieux que Glucksmann, c'est-à-dire 2%.
J'ai eu peur.
Non, mais... Olivier Faure, c'est quand même un problème, c'est qu'il est président de ce parti depuis un petit moment maintenant déjà, ça fait plusieurs années. Le parti est en train de mourir, donc je pense qu'il a déjà un bilan, il n'a pas besoin d'être président de la République, il est déjà président de son parti et le bilan est déjà désastreux. Je pense qu'il faut s'en tenir à là. Bon, comme je vous le dis, les petits candidats, pourquoi ils sont candidats, c'est toujours pour se jauger, pour tester, pour prétendre représenter une certaine partie de la population ou de leur propre parti, de leurs propres électeurs. Il va y aller, il va se ramasser une tôle et puis il reviendra à la maison comme tous les autres.
Vous, Olivier Faure, vous aimez bien ?
Alors honnêtement, j'aime bien Olivier Faure. Quand vous parliez de mes amis les LFistes, je ne suis pas militant de la France insoumise, hein, je tiens à le préciser. Je suis de gauche, c'est vrai, mais s'il y a un bloc qui se crée, bien sûr que je rejoindrai et que je voterai en conséquence pour contrer le Front National. Le Rassemblement National. Et sinon, non, mais je pense qu'il a ses chances de gagner, non, mais voilà, je pense que...
Ça... Il a ses chances de participer.
Nous avons sur le plateau le premier potentiel électeur d'Olivier Faure, et moi, je trouve ça magnifique, voilà.
même vous ne croyez pas en lui, quoi.
Je pense pas que ça soit notre prochain président. Moi, j'espère personnellement que notre prochain président, ça sera Dominique de Villepin.
Ah ouais.
Ok.
Donc quelqu'un de droite.
Oui, c'est quelqu'un de droite, mais qui a des idées quand même très à gauche.
Ah bah, j'aimerais bien avoir votre avis.
Ouais, le CPE, c'était pas très à gauche, hein, mais pourquoi pas.
Pourquoi c'est par ses positions pour la Palestine, par exemple ? Parce que je sais que ça avait beaucoup fait parler.
Non, franchement, c'est pas du tout sur ça. Moi, j'adore les géopolitiques. Hein. Le sujet israélo-palestinien, il est passionnant, on pourra en parler pendant des heures. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très très socialiste et profondément socialiste et qui a un très bon programme.
Armand fait des grands yeux.
Ah non, mais Dominique de Villepin, enfin ministre de Chirac, socialiste.
Oui, non, mais il a ouvert un nouveau parti.
Il a changé, ouais. Oui. Il a changé.
Il a ouvert un nouveau parti, c'est marrant comment vous le dites. On dirait qu'il a ouvert un nouveau magasin. Il vend d'autres produits, il a changé de ligne. La nouvelle boutique est ouverte.
Je penserais plus sur De Villepin, car il a vraiment changé. Mais voilà. S'il faut faire alliance contre l'extrême droite, je dirais au fond.
C'est quoi pour vous l'extrême droite ?
Ça commence où ? C'est vrai ça ?
Ah, ça commence avec Ciotti qui est parti des Républicains. Voilà, ça commence par là. C'est les Républicains.
Retailleau est dedans ou en
deux Retailleau dans l'extrême droite, bien sûr.
Ok.
Ah, oui. Bien sûr.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Vous écoutez pas ce qu'il toutes les âneries qu'il raconte ?
Alors, bah, donc si on dit des âneries, on est d'extrême droite, d'accord ?
Non,
mais...
non,
on est tous d'extrême droite.
Bah, du coup, je suis devenu.
Armand, tu es d'extrême droite.
Écoutez, j'accepte.
Pour moi, voilà, sur l'échiquier politique, ça commence vraiment avec certains républicains qui sont restés républicains, mais après avec Ciotti qui est parti rejoindre l'extrême droite et la famille politique des républicains qui s'est cassé la gueule. Il y a des membres d'extrême droite chez les républicains. Enfin, c'est indéniable.
Non, mais c'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de, pour beaucoup de gens de LFI, merci, par exemple, l'extrême droite commence chez Macron.
Non,
j'ai
non,
été traité de d'homme d'extrême droite par des LFI. Pour moi, c'est pas grave, c'est un compliment de, venant de leur part. Hein. De toute façon, je le prends.
Par exemple, pour moi, David Lisnard, c'est un vrai républicain.
Ah, c'est pas l'extrême droite, David Lisnard.
David Lisnard n'est pas extrême droite, mais Retailleau, oui.
Non, mais.
C'est okay.
Mathilda, mais... vous êtes choqués. Oui,
non, mais j'ai du mal à
Mathilda,
comprendre.
Mathilda, je vais prendre votre
Marine Le Pen est extrême droite, mais Jean-Marie, non.
Vas-y, mais.
C'est.
C'est marrant, non mais c'est parce que moi je pense que tout ça c'est sur l'image, c'est-à-dire que Retailleau on l'a beaucoup diabolisé,
bien sûr. C'est ça,
voilà, et en fait Lisnard on se dit bah il est souriant, il est gentil, il est sudiste déjà, ça aide.
Maire de Cannes.
Il avait Ciotti du coup avant, donc bon je sais pas, en tout cas il a une tête un peu plus peut-être sympathique qui inspire moins la terreur.
Et donc
il est pas d'extrême droite. Mais top, hein, non mais c'est bien.
Pour moi c'est comment s'il est républicain. Dans la famille républicaine il y a des vrais républicains, il y en a moins. Et après, on part vers le Rassemblement National et Zemmour et compagnie.
Et le bruit des potes.
C'est un sujet qui n'en était pas à l'époque où nous étions écoliers, mais c'est l'un des sujets qui a le plus fait débat concernant l'éducation nationale. Alex, de quoi s'agit-il ?
Mais écoutez, le gouvernement a pris la décision de durcir davantage sa vision de l'utilisation du téléphone portable chez les jeunes, car c'est désormais officiel, l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable est étendue au lycée. Vous l'aurez compris, dans toute la France, les portables sont interdits depuis ce mardi 1er septembre, et vous vous en doutez, c'est une nouvelle qui ne doit pas du tout faire plaisir aux jeunes. Mais le gouvernement assume, il assume au point que le président de la République s'est déplacé lui-même en personne pour défendre la mesure face à des lycéens. Emmanuel Macron s'est rendu au lycée Chaptal de la ville de Mende en Lozère pour débattre avec les élèves. Là-bas, la mesure avait été anticipée depuis l'année dernière malgré les 95,5% d'élèves qui y étaient opposés. Le président a dû donner les raisons de cette décision, je vous propose de l'écouter.
On est là avec des objectifs, et vos enseignants en ont aussi, qui est eux de vous transmettre un savoir, vous de l'acquérir. Et donc ça, c'est pas compatible avec être sur son téléphone et être distrait par telle ou telle app et autres. Donc je pense que ça se justifie en soi. Moi, quand je fais des réunions, par exemple, à l'Élysée maintenant, je demande aux gens de déposer leur portable à main. C'est sinon, même à l'Élysée, vous retrouvez, faites des réunions avec des gens, ils sont tous sur leur téléphone. Donc il y a des votes, le ministre peut vous le dire, en conseil des ministres, chacun dépose son téléphone à main. Parce qu'en fait, on n'est pas sinon disponible à ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on ne fait plus rien.
Donc, du coup, pas de téléphone ni à l'Élysée, ni dans les lycées. Bonne ou mauvaise mesure ?
Moi, je trouve ça ridicule, parce que, et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, parce que vous me disiez juste avant que vous étiez pour l'interdiction, mais pour moi, c'est pas à l'éducation nationale de faire l'éducation des enfants. L'éducation nationale, c'est fait pour apprendre à lire, à compter, à écrire. C'est aux parents d'élever les enfants. Donc, pour moi, il y a une forme de dictature de l'éducation aujourd'hui. On veut imposer une forme d'éducation aux enfants qui, pour moi, n'a pas lieu d'être, parce que pour moi, encore une fois, c'est aux parents de gérer leurs enfants et pas au lycée. Surtout qu'au lycée, c'est hyper frustrant. Enfin, quand on est au lycée, on est quand même assez intelligent pour éteindre son téléphone quand on est en cours. Voilà, si on ne l'est pas, bah écoutez, on se prend une heure de colle. Il y a des punitions qui peuvent être mises en place, mais je vois pas pourquoi on pénalise tout le monde sous prétexte que il y en ait deux ou trois qui utilisent leur téléphone en cours, Armand.
Non, absolument pas d'accord avec vous. Et ouais. Navré,
vous
mais
sortez,
non.
Vous êtes viré.
Non, non, il y a beaucoup d'études qui montrent quand même qu'aujourd'hui, la dépendance aujourd'hui aux écrans est quand même terrible, notamment chez les jeunes. Nous, on est encore un peu concernés. Moi, je regarde mon temps d'écran. Déjà, par exemple, je suis assez choqué de moi-même parfois. Hein. Je regarde le temps d'écran que j'ai sur mon téléphone.
Vous êtes
portable.
À combien, vous on va tous regarder là.
Oula,
oh, non.
Si, on doit tous regarder. Sortie des téléphones.
Mais le problème, c'est que moi, j'ai la caméra derrière moi, donc.
Vous ne pouvez pas l'historique.
Vous ne mentez pas.
Je suis foutu, donc.
Vous ne mentez pas.
Oh là là.
On prend celui d'aujourd'hui, donc.
On prend celui d'aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Okay.
Ah non, il y a la moyenne quotidienne, c'est ça ?
Comprends ? Moyenne quotidienne.
Moyenne quotidienne.
Ok, moi je suis à 6h01 minute.
Et c'est quoi l'app le plus utilisé ? Ah oui, moi je suis une travailleuse.
Où est-ce que c'est ? Non, mais... là.
Moi, je viens
ah oui, voir tout l'activité. Je viens de regarder. Activité, autant
Attendez.
Pour moi. Instagram.
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 Pour regarder en détail.
Je suis à 5h.
Oh, ça m'étonne. Ouais. Parce que vous êtes.
Parce que je lis beaucoup.
Ah, vous lisez ?
Oui.
Dominique,
pour quelqu'un de gauche.
Ah, parce que la gauche ne lit pas.
Armand.
Malheureusement, je suis à 6h15 minutes, à peu près. Je suis à 6h17 aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, je trouve ça terrible. Vous imaginez 6 heures dans la journée ? Bon, après, bon, ça fait partie aussi du travail.
Mais... Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil. Ouais, le travail, c'est mon téléphone.
Oui, mais quand même, c'est quand même énorme. Quoi.
C'est
quand même
énorme d'avoir
6 heures sur le téléphone.
Mais non, mais ouais, c'est... franchement, je pensais pas que je serais le plus haut, en vrai.
Pour le travail aussi.
Bah, oui, mais ouais, quand même,
mais
c'est relou d'être le premier. Je suis à 6h35 en moyenne.
Ah d'accord.
Okay. Oh, on est tous à peu près à 6 ans, mais vous imaginez.
Attendez.
Ah ouais, maman, Maya, vous pouvez répéter s'il vous plaît, Maya.
Oh waouh.
Wow. Bah,
8h56. Bah écoutez, restez 4 minutes de plus.
Maya, si vous me répondez pas au téléphone, je saurais que vous voulez vraiment me répondre.
Mais c'est réel ce que vous venez de dire.
WhatsApp,
c'est réel.
WhatsApp est en première position, oui, 8h49. Instagram, 3h43. TikTok, 2h50. Gmail, 1h35. Ça, je comprends pas parce que je me vois pas écrire des mails autant de temps.
Non, mais c'est les recevoir compte.
Ah, ça, par contre, Sephora, 18 minutes. C'est très fancy. Ok, bon.
Bah voilà, vous avez la preuve vivante de ce que j'avance.
Lundi, 11h.
Bah vous avez. Voilà. D'autant plus.
C'est une
folie. Pourtant, vous n'êtes pas au lycée, vous n'êtes pas une ado.
Oui, mais je travaille. Non, bah, mais parce que le téléphone. Non, mais moi, je suis d'accord.
Le téléphone est une extension de
moi-même. Je suis d'accord avec le problème, mais je suis pas d'accord avec la manière de gérer le problème.
Mais les parents sont dépassés.
C'est toujours. Bah alors vous vous contredisez.
On vient nous-mêmes de nous dépasser. Regardez, nous-mêmes on s'attendait pas à ce chiffre-là. On regarde, on se dit nous-mêmes.
Mais vous dites toujours que c'est aux parents d'élever les enfants.
C'est aux parents d'éduquer.
Oui, d'éduquer.
Après, la socialisation, elle se fait dans le cercle familial, mais c'est aussi à l'école.
Oui, mais vous parlez de socialisation et là, vous parlez de socialisation et vous parlez d'éducation, oui, c'est deux choses différentes.
Comment est-ce que si un lycéen a son téléphone, comment il fait pour se concentrer? Il y a aussi, enfin, vous qui avez fait un peu d'hôtellerie, tiens. On est d'accord qu'il y a le savoir-faire et le savoir-être. Il y a un savoir-être à l'école. Et je suis désolé, mais le téléphone aujourd'hui,
il y a par exemple des personnes qui n'aiment pas être, qui se font harceler, qui n'aiment pas être avec les autres, etc. Moi, je sais que par exemple au lycée, j'aimais bien avoir mon téléphone, envoyer des messages à mes parents.
Mais je suis pas sûr que le téléphone justement ça favorise la cohésion sociale.
Ouais, alors, je pense que c'est une petite précision.
L'harcèlement, il continue sur le numérique aujourd'hui.
Je voulais apporter une petite précision à ce qu'a dit Macron. Les téléphones sont autorisés dans la cour de récréation.
Ah, ça je ne savais
c'est
pas.
C'est ça, ouais. c'est l'école.
Donc,
l'école
c'est uniquement pour les cours, effectivement.
Et pour les cours. Donc, chose qui est tout à fait normale pour moi, donc c'est pour ça que je ne suis pas contre cette mesure.
Mathilda, vous en pensez quoi?
Mais moi, en fait, je suis mitigée. C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec vous sur le fait que en fait, l'école n'a pas à faire l'éducation des enfants. En fait, déjà, surtout au lycée, on n'est plus un enfant. On doit savoir se gérer soi-même et pas passer sa journée sur son téléphone. Mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes avec le téléphone. Je pense que quand on est prof et qu'on a 30 élèves en face de soi qui sont en train d'ouvrir leur Snapchat, de filmer la salle de classe, de regarder des vidéos, etc. Parce que je pense que c'est le cas, c'était déjà le cas à mon époque. Et je ne suis plus au lycée depuis quelques années maintenant, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais du coup, je sais à quel point c'est un calvaire aussi pour les profs, etc. Et j'entends qu'en fait, pendant les cours, si on peut faire une pause numérique au niveau des téléphones, c'est quelque chose de souhaitable. Maintenant, en fait, c'est regrettable qu'on en arrive à devoir prendre des lois pour en fait des choses qui devraient être normales. Mais donc, il y a un problème éducatif.
C'est un problème de discipline aussi. C'est-à-dire que.
Mais en fait, on met un pansement.
Exactement, sur une hémorragie.
Sur une hémorragie.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
C'est Alex.
Le problème est là, c'est que c'est une majorité.
Moi, je suis d'accord avec Baya, d'autant plus qu'on ne l'entend pas dans le sonore, c'est une partie que je n'ai pas reprise, mais Emmanuel Macron, quand il fait ce discours devant les élèves, il leur explique que justement, c'est pour leur apprendre à devenir des adultes. Bah, moi, je pense que non, justement, au lycée, je trouve que ça les infantilise. Et je suis d'accord avec vous, Baya, c'est aux parents, en fait, de faire ce travail-là. C'est aux parents de mettre la graine dans la tête de leur enfant, de savoir que quand tu es dans l'établissement scolaire, tu n'as pas utilisé ton téléphone, tu restes concentré pour les cours. Et je pense que oui, s'il y a des enfants qui ne sont pas capables de s'autogérer, pour reprendre votre terme, c'est plutôt un défaut des parents qui n'ont pas su insuffler certaines notions de respect ou en tout cas de bienséance dans certains endroits. Et donc moi je suis d'accord avec vous, c'est aux parents de faire ce travail là et c'est triste qu'on en arrive à légiférer là-dessus.
Cette semaine, une fois de plus, on termine votre tournée de l'info avec une bien triste nouvelle. Un grand homme de la politique française nous a quittés il y a quelques jours.
Exactement, Baya. Aujourd'hui, on tenait à rendre hommage à Édouard Balladur, qui est décédé le lundi 31 août à l'âge de 97 ans. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Édouard Balladur est réellement l'un des personnages incontournables de la Ve République. Je vous rappelle très brièvement son CV. Il a été secrétaire général de l'Élysée sous Georges Pompidou, négociateur des accords de Grenelle en 68, chef du gouvernement sous François Mitterrand en 93. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il était à l'origine du déchirement de la droite en 1995 lorsqu'il décide de se présenter à la présidentielle face à son ami Jacques Chirac. À l'époque, il avait longtemps été donné favori, mais il avait finalement terminé en troisième position du premier tour face à Lionel Jospin et justement Jacques Chirac. On rappelle aussi qu'il avait mené une grosse réforme des retraites, qu'il avait participé à la libéralisation de l'économie grâce à sa politique de privatisation. Et il avait également œuvré contre le chômage, notamment en mettant en place des allègements de cotisations patronales, des aides à l'embauche des jeunes et en développant l'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment une figure emblématique de la politique française qui nous a quittés cette semaine.
Si vous deviez retenir quelque chose dans sa vie?
C'est très compliqué de retenir une seule chose, mais vous savez, moi j'ai fait exactement la même chose. J'ai rappelé à ma maman qui était Édouard Balladur, donc les différentes fonctions qu'il a eues, etc. Elle a conclu par « et en plus il était d'origine arménienne ». Ma maman était assez fière de ça, donc je ne savais pas comment résumer l'homme. C'est effectivement une énorme perte pour la politique française. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au Sénat à plusieurs reprises. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué, je pense, notre vie politique. Et c'était effectivement un grand homme de la vie politique française. Bon, vous avez rappelé 95, mais il y a quand même beaucoup de choses positives, hormis bien effectivement cette, ce qu'on appelait une trahison, mais qui n'en était pas une, qui était une vraie divergence de ligne.
Ryan.
Oui, c'était un grand homme de la politique française. Il est décédé, paix à son âme, et j'en suis vraiment désolé.
D'accord, c'est une fin assez... Mathilda.
Non, mais rien de plus à ajouter. Hein. C'est vrai qu'on a fait le constat de sa vie. Il a vécu, heureusement, assez vieux.
Ouais.
Et moi, je suis... effectivement, je n'insulterai jamais un mort, peu importe son bord politique. Et donc, pour ça, tout mon respect à lui. Voilà.
Nous refermons cette émission comme chaque semaine avec notre débat. Il nous vient de Nice, où le maire Éric Ciotti a décidé de faire flotter le drapeau tricolore dans les 89 écoles primaires de la ville avec levé des couleurs et marseillaise hebdomadaire. Le ministre de l'Éducation nationale s'y est aussitôt opposé, symbole d'unité nationale légitimement réaffirmée ou instrumentalisation politique d'un premier mandat municipal. À vous de trancher.
Le débat.
Alors, j'ai une revendication.
Oui, dites-moi.
Pourquoi j'ai été puni de mon jingle? Est-ce que vous me l'avez retiré ou...
C'est vrai qu'on a oublié le jingle d'Alex.
Ouais, vous avez, et en fait, je m'en suis pas rendu compte quand on a démarré la chronique, mais maintenant que je m'en rends compte, je suis très déçu parce que vous savez que j'adore le jingle que vous m'avez produit.
C'est peut-être pour ça qu'elle l'a enlevé.
Non, alors, il va y avoir un nouveau générique avec des nouveaux jingles.
Ok.
Voilà, j'ai hâte de vous les faire découvrir.
On regarde celui-là quand même, le débat.
Vous voulez le garder?
J'aime bien la fin, moi. Le débat.
Donc, on parlait d'Éric Ciotti. Voilà, Éric Ciotti annonce le 28 août l'installation de mâts et de drapeaux tricolores dans les écoles primaires niçoises. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour insuffler un peu de nationalisme dans nos écoles, Mathilda?
Ah, moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est très bien parce que c'est vrai que quand on voit à quel point la société peut être divisée, on a parlé d'ailleurs de plein de sujets qui la divisent ce soir, donc c'est un très bon exemple. Je pense que c'est bien de rappeler justement aux jeunes Français, aux petits Français, dans quel pays ils vivent. Et donc pour ça, le drapeau, je pense que c'est le symbole le plus évident. Il y a plein de pays d'ailleurs dans lesquels les drapeaux sont affichés absolument partout, notamment parfois sur les maisons. C'est vrai qu'en France, on ne le fait absolument pas. D'ailleurs, on taxe même parfois certaines personnes de racistes ou de fascistes quand elles le font. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de normaliser, c'est vrai, le port du drapeau dans les écoles, sur les maisons, pourquoi pas, enfin partout. Je pense que c'est
Moi, je suis assez d'accord avec vous et je trouve ça pas normal, en fait, qu'on ait besoin, en fait, de le faire maintenant. C'est-à-dire que, pour moi, ça aurait dû être là depuis toujours.
Il y a peut-être besoin, à une certaine époque aussi, de le faire.
Oui, mais aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, Mathilda, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez un drapeau français dans votre bio Insta, on vous taxe de fasciste. Donc c'est vrai que c'est là où aussi la mesure va diviser, Ryan.
Alors écoutez, moi, cette mesure ne me dérange pas du tout. Mais après, est-ce qu'elle est nécessaire? Non. Je pense pas qu'on ait besoin de lever les drapeaux pour se rappeler qu'on est en France. Mais je trouve que...
Non, mais nécessaire, non, c'est toujours un symbole. Donc,
oui, c'est
voilà,
un symbole.
Évidemment,
après, non, mais... ça ne me dérange pas du tout. Enfin, c'est bien si ça se fait dans toutes les écoles, je ne serais pas contre du tout. Après,
pour
tout,
vous, le drapeau français n'est pas fasciste?
Pas du tout, non.
Je dis ça parce que certains de vos amis...
Non. c'est avec mes amis qui ne sont pas mes amis, voyons.
On a trouvé notre Gilbertez.
Alors, à l'inverse de Ryan, je pense qu'il est plus que temps et plus que nécessaire d'avoir ce genre de mesures parce que la société française est de plus en plus divisée, de plus en plus sclérosée. Et effectivement, Mathilda l'a très bien rappelé, il y a un symbole d'unité dans ce pays qui est encore le drapeau national. Et je pense que c'est une mesure qui est très bien et qui devrait effectivement s'étendre à l'ensemble de la France, à l'ensemble des écoles françaises, que ce soit la France métropolitaine ou les dom-toms, et voilà, sur tout le territoire français. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne mesure. Ça rappelle quelles sont nos valeurs, quels sont aussi nos principes en tant que Français, et on s'en sentira que mieux. J'ai très mal fini ma phrase.
Est-ce que vous vous souvenez de la loi Blanquer de 2019?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous résumer un
pas
peu?
Pas du tout. Je me souviens de la loi, mais en détail.
Sachez
non,
qu'il
je
est déjà, il est déjà imposé. C'est un amendement qui avait été amené par Éric Ciotti lui-même, et il est déjà imposé d'avoir le drapeau français.
Oui, dans l'enceinte de l'école.
Oui,
dans l'enceinte.
D'une certaine manière. Oui.
Oui, il n'y a pas le lever de drapeau.
Excusez-moi, vous êtes le dernier. Mais
non, il n'y a pas de souci. Mais très très bonne mesure. Moi, je trouve ça assez triste qu'on soit le seul pays au monde, je pense, qui vraiment a un dégoût, enfin, dont certaines personnes dans ce pays ont un dégoût de.
Je rappelle que 70% de la France est de droite. Hein.
Non, mais c'est pour ça que certaines personnes ont un dégoût, comme vous le disiez, on est traité de fachos, de fascistes si on ose mettre le drapeau en avant. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne mesure de sorte à ce que, en fait, ça va faire travailler justement l'amour du drapeau dès le plus jeune âge. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler depuis enfant, justement, pour que à l'âge adulte, on se retrouve pas avec des gens qui ont une détestation du drapeau.
Il y a un travail de fond à faire dans l'histoire aussi. Parce que quand vous regardez l'histoire qu'on nous apprend à l'école, c'est pas forcément.
Il y a quelque chose qui me dérange. Quand vous dites on est traité de fachos quand on met nos drapeaux français sur nos. On met des drapeaux français sur notre bio Instagram. Vous faites quantifier comment, quand, par qui.
Thibaut InShape. La polémique Thibaut InShape. Je vous répondrai très simplement par la polémique Thibaut InShape. Il y a un influenceur qui met un drapeau au fond de sa salle. On lui dit t'es un sale facho, t'es un raciste, t'es d'extrême droite alors qu'il n'a jamais parlé de politique avant ça. Voilà.
Mais comme, j'ai dit,
quoi,
mais comme j'ai dit, Ryan,
vous avez l'air bouche bée.
Non, parce que je connais pas cette polémique, c'est pour ça.
Jurisprudence,
non, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous mettez un drapeau français dans. Alors, si vous mettez une fleur de lys, là, c'est fini, c'est nazisme. Vous comprenez qu'il y a quand même des. Vous êtes d'accord avec ça, vous?
Non, mais c'est vrai. Ah, je suis d'accord avec
vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes
d'accord
avec
votre constat? C'est-à-dire que même quelqu'un qui vous dit je suis royaliste.
Vous êtes de la malhonnêteté intellectuelle quand vous allez sur TikTok. Et que vous voyez tous les commentaires, vous voyez bien qu'il y a, aussi des, comment dire, il y a des symboles qui font que
la moyenne d'âge des utilisateurs de TikTok est de quel âge?
Mais ces gens-là votent, arrêtez de les infantiliser. Déjà, on n'a pas le droit d'avoir 14 ans et être sur TikTok. Je joue votre jeu, vous voyez. Oui, mais non, dans la vraie vie, vous savez les lois. Non, mais voilà. Vous savez très bien que oui, il y a des mineurs, effectivement, il y a des mineurs. Mais le problème, il est là, c'est qu'il y a aussi des jeunes adultes, il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont un problème avec le drapeau, parce qu'ils préfèrent parfois le drapeau de leurs origines. Ce que je peux comprendre. Mais le drapeau français, il faut quand même le respecter. On est en France.
Merci Armand. Qu'est-ce qu'on
je
peut vous souhaiter?
Je suis d'accord avec Armand. Il faut respecter le drapeau français.
On peut vous souhaiter pour la semaine prochaine.
Bah d'être de retour déjà et en santé. Bah oui.
Pourquoi vous avez des petits soucis?
Non, tout va bien, mais j'aimerais que ça continue justement.
Vous êtes heureux Armand. Vous êtes heureux d'être là.
Mais je suis heureux. Bah qu'est-ce qui se passe? Une psychanalyse d'un coup.
Alex.
Moi heureux d'être là. Armand vient de me mettre sous pression, donc j'espère que je serai là aussi la semaine prochaine et en bonne santé. Mais sinon, à part ça, tout va bien.
Mathilda, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Beaucoup de courage pour cette année de campagne présidentielle qui va commencer, où on va sans doute pas beaucoup dormir et beaucoup travailler.
Voilà. Est-ce qu'on peut vous souhaiter un striptease prochain? Parce qu'apparemment, vous faites des striptease.
Alors, ça, il va falloir poser des demandes, mais on en parlera à Ryan si vous le voulez ensuite.
Ryan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que journaliste?
Que de belles choses aussi pour l'application que je lance et de la santé. Et voilà.
Vous avez été à l'aise? Vous êtes heureux de...
Très heureux, merci.
Ça va? Oui. On vous a pas trop secoué?
Pas du tout.
Est-ce que vous assisterez au striptease de Mathilda?
Vous revenez quand vous voulez. Mathilda aussi. Merci. Très chers auditeurs, merci d'avoir suivi On ne va pas se mentir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.